Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8h00 sur les ondes de Radio Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce jusqu'à 10h. Anthony au micro, accompagné de Richard, évidemment. On salue l'absence de notre cher Christian, qui reprendra ses fonctions dès la semaine prochaine. Avant de vous développer le sommaire, on vous rappelle qu'on est audible sur la bande FM par le biais du 88.4, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. Un point évidemment pour vous rappeler que on n'est pas audible, en tout cas on peut plus vous accueillir à l'antenne par le biais du standard. On a quelques soucis techniques depuis quelques semaines, nouvelle table de mixage, comme dirait l'autre, on peut pas tout avoir. Donc on est désolé, mais vous ne pouvez plus réagir à l'antenne en nous posant vos questions, en nous développant vos ressentis et autres. Ça devrait être rétabli très prochainement. Avant d'accueillir nos invités et faire un éclairage sur Festifam qui aura lieu ce samedi à la salle de la Confluence pour les journées des droits de la femme. Nous avons Lisa qui est avec nous et Sandrine qui est avec nous. Lisa Mapola, pardon, et Sandrine Galliano. Avant de les accueillir, donc 8h05, 8h40, Festifam. 8h45, 9h25, c'est le menu et le sommaire avec Fabrice Aubert, notre géopoliticien très contestataire avec un angle, vous verrez, polémique, viendra nous parler de la politique de manière générale. Il parlera aussi de l'IA, l'intelligence artificielle. Et puis 9h30-10h, on recevra un groupe de musique passionné des Rolling Stones et qui fait une représentation le samedi 15 mars, donc dans 10 jours, pour notamment parler et nous présenter ce joli concert des Rolling Stones. Bonjour mon cher Richard, évidemment bonjour auditrices, auditeurs, et à nos invités du jour qu'on va saluer dans quelques petites minutes, Richard.
Eh bien, auditeurs, auditrices, bonjour aussi, Anthony, puis nos invités qui sont déjà sur le plateau. Donc, comme vous savez, je vous présente toujours la journée mondiale du jour, sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, donc, on va faire la journée des femmes, puisque ça va être samedi prochain, hein, on avance un peu.
Exactement.
Et je tenais juste, alors, puisque je vous ai parlé un petit peu de certains endroits sur Marseille, dont un, après j'en présenterai d'autres chaque semaine, qui s'appelle la Caverne Jazz, qui mériterait d'être vue, qui est à la rue Fifi-Turin, avec un cadre magnifique, décoré style antiquaire, et des tableaux, des trucs, etc., où il y a pas mal de concerts qui se passent, voilà, c'est sur Marseille et c'est tous les vendredis, je pense. Voilà, c'est important de faire un éclairage aussi sur tout ce qui est jazz sur Marseille, il y en a pas mal. Hein.
Très bien, et on rappelle évidemment, journée des droits de la femme qui auront lieu.
Moi j'ai été surpris par le décor, j'y suis allé vraiment estomaqué.
Parfait, mon cher Richard, on rappelle, journée des droits de la femme, c'est samedi 8 mars, tu voulais faire un petit éclairage et un petit clin d'œil, tu fais bien, évidemment. Et d'ailleurs, c'est caractérisé aujourd'hui puisqu'on reçoit des femmes. On est ravis de les accueillir pour parler de Festifam. Voilà, 8h04 sur les ondes de Radio Galère. On va donc cibler et profiter en tout cas des comédiennes du jour. On va les saluer, on va parler de leur univers, on va parler de leur connexion avec Festifam. Je salue et je ne peux pas évidemment introduire ce dossier sans saluer la papesse de la comédie à Marseille, c'est-à-dire évidemment Eliane Zayan, qu'on connaît très bien à Radio Galère, qui vient chaque année, même parfois à deux reprises. Ça fait des années que je la côtoie. C'est un amour de femme, donc je tiens à le signaler. Et puis c'est surtout une dénicheuse de talent. Donc aujourd'hui, elle m'a dit, voilà, tu vas avoir mes filles. Donc Isabelle Guillot est avec nous, Lisa Mapola, Sandrine Galliano, malheureusement, est absente. Ah voilà, elle est... Oui, pardon, Sandrine Galliano est avec nous, autant pour moi. Je me trompe dans les noms, non. Rassurez-vous, quand je vous aurai présenté, n'ayez pas peur, Eliane, Sandrine est bien là. Isabelle est absente, elle va peut-être nous rejoindre et prendre les wagons en route. Ça fait partie aussi du jeu. Un point sur Festifam, l'art et l'humour au féminin. Bonjour Sandrine Galliano, bonjour Lisa Mapola. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous.
Merci à toi.
Mais avec grand plaisir. Et bonjour Lisa.
Bonjour.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. On va parler un petit peu de vous. On va vous laisser d'ailleurs parler de vous parce que c'est extrêmement intéressant. Et puis de nous rappeler un peu la connexion. On a par exemple Sandrine Galliano qui est libraire. Vous voyez, donc parfois on ne peut pas dire que les métiers ont... Il y a une cause vraiment complice avec le monde de la comédie. On a reçu à plusieurs reprises des professeurs d'école qui ont quitté... la classe pour la scène. Enfin, il y a eu de temps en temps des trajectoires extrêmement intéressantes. Mais si vous êtes là, Sandrine, c'est que vous avez du talent. Et donc, un petit mot sur cet amour, j'allais dire, du stand-up, de la comédie. Il y a aussi le théâtre qui vous caractérise, puisque vous en faites, si je ne dis pas de bêtises, depuis une quinzaine d'années. C'est un peu ça l'idée. Parlez-nous un petit peu de cette connexion avec la comédie et puis avec Festifam.
Eh bien, moi, ça fait tout juste un an que je fais du stand-up. Mais jusqu'à présent, j'ai fait effectivement beaucoup de théâtre, un peu par hasard, parce que j'ai habité pendant longtemps le boulevard de la Blancarde, et un matin, je passe et je croise un monsieur devant l'Antidote, c'est Ali Bougueraba, et je commence à parler avec lui. Et,
qu'on connaît très bien, qui est voilà, déjà venu sur nos ondes. Oui.
Et il m'a dit, allez, viens faire un essai et tout, patati patata, et voilà, il y a 15 ans de ça, j'ai poussé la porte de l'Antidote, et j'ai commencé par de l'impro. Et après, avec des cours, et j'ai chopé le truc, quoi.
Alors déjà, vous avez chopé le truc, mais vous avez peut-être chopé aussi la bonne personne, parce que Ali Bougueraba, pour
exactement,
le coup, qui a eu un Molière il y a quelques années, qui est un excellent metteur en scène, évidemment, qui est le frère, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent...
De Redouane
ouais. Bougueraba, évidemment, ultra-marseillais, bien connu. Il est sur les scènes à Paris, il fait une carrière, on va dire... bien développé, mais donc c'est cette connexion-là. Le théâtre a existé toujours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours plu dans cette volonté de s'exprimer?
Oui, j'en ai toujours fait un petit peu au lycée parce que j'avais des gros problèmes d'élocution et de timidité, etc. Donc ça a été un tremplin pour un petit peu sortir de là, comme beaucoup.
Génial, intéressant.
Mais après, c'est devenu aussi une passion littéraire, parce qu'une fois qu'on commence à lire les textes de théâtre, etc., ça devient vraiment une passion à double niveau, jouer, et puis lire, et interpréter. Et je suis revenue un petit peu plus tard au théâtre. Et puis voilà, depuis ça ne me lâche pas, j'ai joué des pièces contemporaines, des pièces classiques. J'ai intégré il y a 3 ans une troupe semi-professionnelle qui était basée sur Berlétan.
Vous pouvez rappeler le nom de la troupe?
C'est la troupe Astromela, dirigée par Dominique Berardi, et qui m'a donné la chance de travailler sur des textes puissants comme le dialogue des Marguerites d'Xavier Albertini, et des pièces de Balasco également, et une pièce aussi notre regretté Henri-Frédéric Blanc qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et
oui,
dans lequel je jouais dans les Cochonques. Voilà.
Parfait, merci en tout cas pour cet éclairage. Oui, Richard, avant de donner la parole à Lisa.
Voilà, juste une petite parenthèse. Festifam, bon, on va parler un petit peu. C'est quelque chose qui existe depuis 30 ans.
Exact.
Le concept, c'est un mélange d'artistes plus anciens dans le métier et relativement nouveaux. Mais ce qui est sûr, c'est que Eliane, bon, a pour principe de choisir que les talents, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Donc bravo de faire partie de cette brochette où il y aura quand même pas loin de 30 artistes, hein, ou peut-être plus.
Ouais, peut-être plus même.
Plus que ça?
Dans l'humour moins, mais c'est vrai que tout
sur Festifam.
Sur Festifam,
oui, une trentaine,
tout confondu, oui, parce qu'il y aura également de la musique, des
artistes.
Donc voilà, c'est un spectacle qui est absolument à voir, et bravo d'y faire partie.
Merci.
Bah bon, on a une super chance, là.
Voilà, et maintenant, on va passer à vous, alors.
Oui, tout à fait, avec plaisir.
Alors justement, un point, on accueille, ça fait aussi partie, c'est les lois du direct. Un petit retard, mais vous êtes là, c'est le principal.
Coucou, Isabelle
Guillot est avec nous, donc on va vous saluer évidemment sur les ondes de Radio Galère. Donc c'est un petit peu les impondérables, mais c'est les lois du direct, on s'adapte et on va y arriver. Bonjour Isabelle.
Bonjour tout le monde.
Voilà, merci d'être avec nous. On faisait un petit peu le topo, notamment avec Sandrine Galliano. Un mot avec Lisa Mappola, d'ailleurs, dans le dossier de presse, trouve ça très bien développé. Je cite, avec sa coupe au carré, sa petite voix et son sourire d'ange, les gens disent souvent à Lisa qu'elle ressemble et qu'elle a la dégaine de Dora l'exploratrice. Elle leur répond souvent, je cite, d'aller se faire foutre. LOL, évidemment. Enfin, elle aimerait bien, parce que quand t'as presque 30 ans et un charisme d'un Tamagotchi, c'est pas facile de s'affirmer. Moi, je trouve ça extrêmement évocateur. Super bien écrit, d'ailleurs.
Est-ce que tu crois que ça colle maintenant que tu m'as rencontré ?
C'est super sympa. Comment ?
Est-ce que tu crois que ça colle maintenant que tu m'as rencontré ?
Oh, pour le charisme, non. Pour le reste, probablement. Mais le charisme, je pense que tu en as. Et puis, je pense surtout que tu as du talent. Lisa Mappola, parle-nous, justement, mais cette connexion avec la comédie, le stand-up, avec l'univers, notamment d'Eliane Zayan. Et on le rappelle, samedi, c'est Festifam. Votre première, d'ailleurs, vous trois. Oui. À vous trois, voilà. Moi, je serai là, j'aurai la chance de venir vous voir. Je suis venu sur les deux dernières précédentes éditions. Lisa, on vous écoute.
Bonjour tout le monde, bonjour. Je vais commencer par faire un bisou à Eliane qui n'est pas avec nous, comme tu le disais, parce que sinon je vais oublier. On l'embrasse et on est très contente d'être là. Donc je m'appelle Lisa Mappola, moi ça fait 4 ans que je fais du stand-up, bientôt 4 ans, et j'en suis ravie. Moi ça a été un petit peu... par hasard aussi, finalement, comme Sandrine, que je me suis retrouvée là-dessus. Je crois que finalement, tous les grands amours, c'est un peu comme ça. C'est mon arrivée à Marseille qui a fait que je me suis tournée vers des choses un peu artistiques que je n'avais pas eu l'occasion de faire avant dans ma vie. Et du coup, dans cette recherche-là, j'ai croisé le chemin du stand-up et de gens très bienveillants qui m'ont accompagnée, qui m'ont formée à ça. Et très rapidement, j'y ai pris goût à tel point que très rapidement, j'ai quitté mon travail très, très rapidement.
Vous étiez de quelle formation ? C'est intéressant.
Oh, wow, de plein de formations. De base, traduction-interprétation.
Ok, très bien.
Et j'ai eu mon diplôme et mon master ensuite là-dedans quand j'étais en Espagne. Et après, j'ai toujours eu le goût du voyage. Donc, j'ai mis ça un peu de côté une fois que j'étais bien diplômée. Et j'ai fait plein de petits boulots différents, notamment dans l'hôtellerie où les langues, ça me servait beaucoup.
Bien
et
sûr.
En fait, je me suis rendu compte que depuis toujours, j'aimais les langues, mais parce que j'aimais parler aux gens et j'aimais échanger avec les gens. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a tourné vers l'hôtellerie et faire plaisir aux gens. Et je pense que c'est ce qui m'a ramené au stand-up aussi par la suite.
En tout cas, c'est une bonne psychanalyse que vous venez de faire, cet éclairage, cette analyse sur... vous vouliez parler aux gens, du coup la scène justement vous a permis ça.
Et
aujourd'hui ça fonctionne bien et ça va fonctionner de mieux en mieux évidemment avec notamment, c'est un éclairage quand même extrêmement intéressant samedi, cette salle qui est d'ailleurs magnifique, il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui est extrêmement chaleureux. Moi ça fait 3 fois que j'y vais depuis qu'ils ont, c'est la 3e année si je dis pas de bêtises, qu'ils sont à Auriol et c'est toujours un plaisir évidemment. Juste avant de donner la parole à Isabelle, on rappelle que ça se passe donc le 8 mars à 20h30 à l'espace de la Confluence rue Jean Ferrat. C'est full, c'est complet, on peut plus vous offrir des places, vous pouvez plus vous procurer des places, c'est full, mais nous on voulait quand même faire un éclairage sur Festifam et on le rappelle, journée des droits de la femme ce samedi 8 mars. Il y aura 30 artistes femmes dans tous les domaines, l'art, la musique, l'humour, évidemment, vous êtes là. Il y aura un accueil avec les choristes du Divin Gospel, Magali Ponsada, c'est un groupe de gospel qui est fondé depuis une quinzaine d'années. Donc voilà, vous verrez, Magali est chef de chœur et choriste. Il y aura le maître de la cérémonie, Benji Dochi, voilà, qui va articuler et qui va faire preuve d'aisance oratoire, qui va jouer le lien entre le public et nos invités, en tout cas nos artistes du jour talentueuses, Lisa Mappola, Misogyne, Sandrine Galliano, et donc Isabelle Guillot, je cite, psychologue de comptoir certifiée depuis l'âge de 8 ans, actuellement avocate du diable en stage. Isabelle vous invite pour un spectacle de stand-up des plus délicieux. Bonjour de nouveau Isabelle, bienvenue sur les ondes de Radio Galère. Parlez-nous de vous et de votre connexion avec le monde de la comédie et avec Eliane Zayan qui est évidemment incontournable.
Bah, pareil comme Lisa, je vais lui faire un coucou et un merci pour cette opportunité. Je veux aussi dire que je suis hyper fière de passer sur Galère, malgré mes galères de trottinette qui font que peut-être j'étais pas exactement à l'heure.
On va pas revenir là-dessus.
Voilà, un petit mot et on peut passer à la suite. Comment j'ai mis les pieds dans le stand-up, c'est ça
Exactement.
Alors moi, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et un peu comme Lisa, mais en même temps différemment, depuis que je suis petite, je suis une papoteuse et une emboucaneuse. Ça me collait un peu à la peau.
Mais là,
ça.
Au bout de 30 secondes, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris.
Ah ouais, tu vois, finalement, auto-analyse assez juste, assez correcte.
Quelle pertinence.
Donc oui, ça a été aussi petit à petit, comme les comédie clubs sont apparus dans Marseille. À Marseille, ça s'est un peu plus développé, d'aller d'abord voir les plateaux d'humour et de se dire... Ah mais et si moi aussi peut-être. Donc un premier open mic, une première scène ouverte, une deuxième, puis pareil de commencer à prendre des cours, commencer à monter sur scène, continuer à monter sur scène. Pareil, hein, le cursus classique de arrêter le travail que je faisais.
C'est souvent ça d'ailleurs hein, pour les stand-uppers ou la comédie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe avant. Et puis, à un moment donné, un virage, parce que parfois, on s'enlise, parfois, on ne se reconnaît pas dans le métier dans lequel on est. Alors, ce n'est pas le cas pour Sandrine, hein, évidemment, qui a priori...
Pas encore.
Pas encore.
Ah non, moi, c'est une passion. Le livre, hors de question, que je m'arrête.
Ah, c'est chouette d'avoir deux passions.
Ouais, moi, j'étais travailleuse sociale, j'étais éduxpé, du coup, passion, oui, mais fatigue hein, aussi, beaucoup. Beaucoup plus rigolo, quand même, de faire des blagues, du coup.
On est d'accord, c'est un autre univers, évidemment. Il y a cet assemblage. Un mot, Isabelle, notamment, sur Festifam, ça représente quoi pour vous d'être à Festifam ? Et là, je m'adresse à vous trois et on démarre par vous, Isabelle.
Moi, en commençant le stand-up à Marseille, rapidement, la première année, j'ai participé à l'élaboration, à la construction d'un collectif qui s'appelle Stand-up Girls avec ma collègue Ori. Et on organisait, on a été quasi les premières dans le réseau des comédie clubs il y a 2 ans et demi, bien tassé maintenant, à faire des plateaux de stand-up amateurs 100% féminins. Puisque dans le stand-up, dans les plateaux, c'est une femme pour 6 hommes. Donc la question de la visibilité, de l'engagement féminin, féministe, moi, ça, c'est plutôt ma cam.
Ça te parle, mais c'est de moins en moins le cas quand même, c'est important. Il y a quand même une recrudescence, et tant mieux, des femmes au talent, parce que c'est bien beau de dire on a un homme ou une femme. Non, ce qu'on veut, c'est du talent. Hein, moi, je trouve que ce côté sexisme, il est complètement réducteur. Si on a du talent, qu'on soit une femme ou un homme, on doit avoir une scène libre, on doit être évalué à sa juste valeur, et ça, c'est extrêmement important. Vous en avez du talent. Moi, je salue, par exemple... Bédou, peut-être que vous connaissez, oui, voilà, qui était chroniqueur pendant un an et demi. Je le salue, mon Bédou, qui est un très bon mec et qui était chez nous chroniqueur et qui est d'ailleurs prof. Maintenant, il donne des cours de stand-up. Mm-hmm. Voilà, qui a une certaine, on va dire, bouteille désormais.
Ouais,
hein.
Notoriété locale, bien. Ouais, c'est la star de Marseille, Bédou.
Bon, mais voilà, écoutez, on est ravis de le savoir, mais on n'en doute pas. Mais en effet, il y a cette place qui se fait aussi pour les femmes, et il faut pas. Oui, alors quand on parle de comédie, il n'y a pas que Florence Foresti, enfin voilà, c'est important de le rappeler, ou Anne Roumanoff pour les plus anciens, sans faire offense à Richard lorsque je dis ça.
Anne Roumanoff qui a fait partie du Festifam. Hein.
Exactement, mais voilà. Vous voyez, c'est pourquoi la transition est toute faite, c'est parce que j'avais cette info en moi, et en plus vous la ressortez. Oui, rassurez-vous, avec Eliane, on est au courant de toutes les connexions qui peuvent exister. Elle m'a dit, tu te rappelles que j'ai lancé Nicole Ferroni, que voilà, donc Titoff à l'époque, donc évidemment il y a toute une ribambelle de talents. Là, c'est pour Festifam. Justement, on y vient avec vous, Sandrine. J'allais dire la littéraire.
Oui.
On peut vous cataloguer comme ça.
Oui.
Voilà. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
C'est quand même plutôt atypique, en tout cas, parce que ce côté réservé, timide, qui peut vous caractériser, et justement de pouvoir parler, s'adresser à un public qui, on peut le dire, est parfois un public qui est favorable, mais on a toujours des gens qui sont plus ou moins critiques, qui sont plus ou moins dans la critique. Vous avez franchi le pas, donc ça c'est beau.
Ah, moi je savais que d'entrée j'allais être critiquée dans le stand-up. Je suis un peu la vieille qui arrive sur le tard, et j'ai une connotation très théâtrale, donc au début ça m'a un petit peu pas servi du tout. Mais moi ce qui me sert c'est mon métier, hein. C'est les gens que je rencontre tous les jours, c'est mes clients, c'est une source inépuisable de d'anecdotes. Ah ben oui, mais c'est pour ça que je ne voudrais pas faire l'un sans l'autre, parce que ben, ça va te perdre, quoi. Voilà. Et puis quand on parlait de ben, Roumanoff, effectivement, ça fait partie des anciennes, de l'ancienne génération. Mais il y a plein de talents comme ça qui ont été découverts par Eliane. Effectivement, Nicole Ferroni, Charlotte Ferrato, oui. Elodie Poux. Oui. C'est quand même des grosses pointures.
On a Marion Manca, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a fait Festifam et qui est venue chez nous il y a 3-4 semaines, qui est venue chez nous aussi en septembre. Et que j'ai vu il y a 15 jours, puisqu'elle est dans l'optique de nous faire une chronique chez nous. Donc,
adorable, voilà. Et très drôle aussi.
Très drôle et adorable. Très drôle et vraiment, on s'est régalé en sa présence. Elle fait quelques films là désormais, là, elle tourne sur quelques films aussi. Donc voilà, sa carrière se lance, mais elle a du talent comme vous. Et elle aussi était professeure des... Enfin, elle aussi a un parcours particulier, elle était professeure des écoles. Pendant 12 ans, elle a tout arrêté. Et ça fait pas si longtemps que ça, je crois que ça fait 5-6 ans qu'elle est dans le milieu et tout se passe bien pour elle. Je suis allé la voir à la Comédie des Suds juste avant les fêtes. Richard, tu vas me dire le nom de la pièce, c'était Petit doute d'un coup.
Je crois que c'était Ne dites pas à mon frère que je suis
à mon mari que je suis marseillais. À mon mari que je suis marseillais, exactement. Et on s'était régalé voilà avec Marion Manca.
Une interprétation par la pièce est magnifique.
Ouais, exactement.
La pièce fait en sorte que hein.
Oui, aussi. Voilà. Donc connexion oui Festifam pour vous, Sandrine, juste avant de donner la parole à Lisa.
Festifam déjà c'est une opportunité de dingue. Je vous remercie d'ailleurs Eliane de me donner cette chance. Et puis oui, bon, c'est la journée des femmes, c'est toute l'année, les femmes. Donc, c'est une manière encore plus...
C'est important de le rappeler. Souvent, on se doit de le dire, faites bien.
Mais pour moi, c'est un parcours, le fait d'arriver sur scène et puis de pouvoir raconter mon histoire de maman célibataire, pour moi c'est super le jour de la journée des femmes de pouvoir raconter un bout de mon histoire. Pour moi c'est génial.
Alors, est-ce que c'est l'occasion un événement de cette sorte, c'est-à-dire il y a quand même 30 artistes, 30 femmes, il y a un homme, je crois.
Oui, mais on a entendu dire qu'il était très compétent quand même malgré tout. Donc,
Écoutez, je sais pas de qui parlez-vous. Non, c'est vrai que les gens sont de valeur. Mais est-ce que pour vous, parce que ce n'est pas des événements courants dans votre carrière, d'être sur des plateaux, autant d'artistes, etc. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose de très important? Et est-ce que vous avez des relations qui se démultiplient en fonction des gens qui sont sur le plateau, que vous voyez à répétition? Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est spécial d'être dans une soirée vraiment très grosse quoi en fait.
Bah c'est galvanisant ça c'est sûr.
Moi je réalise pas encore de toute façon alors. Je me dis mon Dieu 400 personnes avec quasiment des humoristes que je connais pas encore forcément et du coup ça va me permettre peut-être de créer des liens
c'est pour... ce que je dis oui
ouais,
c'est
pour ça. Oui de créer parfois il y a c'est de la famille
de se retrouver dans une même profession enfin. Pas tout à fait des fois, enfin, je veux dire, et de pouvoir élargir sa vue, hein, voilà. Donc, c'est vraiment ce que Yann a fait, c'est quand même très bien, parce que les plateaux de ce ordre-là, il n'y en a pas...
Surtout depuis 30 ans, mais... 30 ans d'affilée comme ça, 30 ans de programmation, je ne suis pas sûre que les festivals qui durent aussi... c'est un travail de fou,
En fait, il y a eu un mariage qui s'est fait avec la mère d'Auriol, puisqu'avant, elle était surtout au Silo, sur Marseille. Hein. Mm-hmm. Et donc, une amitié s'est créée entre la mère d'Auriol et Eliane. Et depuis donc, plusieurs années, elle fait le spectacle Festifam à Auriol, à la salle de la conférence. Je crois.
D'ailleurs, on remercie énormément Véronique Micheli. Hein,
la mère d'Auriol, tout à fait.
La mère d'Auriol nous accueille, qui accueille en tout cas.
Auriol, je crois, c'est la seule ville où depuis 50 ans, c'est une femme qui dirige.
Oui, qui est au pouvoir depuis 50 ans.
C'est
une bonne nouvelle.
C'est abominable pour nous, les hommes.
Absolument pas. Très, très bien. Non, mais c'est important de le rappeler. Elle fait un boulot remarquable. Elle était venue pour la première de Festifam dans nos locaux il y a donc 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était un vrai plaisir. Et elle est extrêmement fière, en tout cas, de vous accueillir et d'accueillir, vous imaginez, 400 personnes. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien pour Auriol.
420.
420.
Ouais.
Voilà, c'est exactement. Important. Et je ne sais pas si elle inclut la presse, mais oui, 420. Puis je pense qu'en plus, il y aura toujours des possibilités de peut-être de d'augmenter, même si je sais que c'est full.
C'est,
voilà.
C'est même juste une parenthèse, c'est très important d'être là-bas, car quand on voit la programmation autre que la vôtre sur Auriol, on voit la qualité et le choix. Hein, donc, je crois que c'est merveilleux pour tous, pour vous, d'être là-bas et de pouvoir échanger avec des personnes qui sont plus reconnues que vous, qui peuvent vous... Voilà, c'est très important, quoi.
Hein. C'est un moment de réseautage, c'est sûr. C'est quelque chose que moi, je vais pouvoir noter sur mon CV artistique derrière. C'est un vrai tremplin. On a l'habitude quand même, le plus souvent, de faire des scènes qui vont de 10 à 80 personnes. Mais toute la semaine, les grosses salles comme ça, dépasser 100, 120 personnes, c'est assez rare pour... mettre un petit track différent aussi.
Juste un point, c'est important de...
Vis-à-vis du public, quelque chose de plus géant, quoi.
Mais là, les gens sont là pour nous écouter. C'est ça qui est formidable, parce que quand on fait des comédie clubs, c'est assez dur de capter l'attention des gens. On n'est pas vraiment dans... Là, on est sur une scène. On va avoir un jeu de lumière, on a du son. Enfin, on est vraiment dans des conditions spectacle qu'on n'a pas le reste de l'année. Voilà.
Ça dépend un peu parce qu'il y a quand même pas mal de salles, même si effectivement, enfin c'est ça, le stand-up, c'est s'adapter un peu à toute situation, essayer de faire rire en toute situation. Donc effectivement, comme tu le dis...
L'improvisation, souvent aussi, qui est évoquée, alors même si dans le stand-up, mais on la joue aussi avec le public, on en avait parlé, on avait reçu la Ligue de l'improvisation, d'ailleurs, d'Aix, qui était venue pour nous parler de ce genre de procédé. Ça aussi, c'est-à-dire, alors, a priori, pas samedi, parce que vous avez forcément votre spectacle, mais dans le stand-up, vous pouvez parfois aussi, alpaguer une personne, l'interpeller, ou être par rapport à un détail ou autre, ou le fameux clash, mais il y a aussi le côté du rebond, ça aussi, ça fait partie de la force du comédien.
Bien sûr, et ça, je dirais, c'est même en toute situation, même, ça arrive même dans les grandes salles de 400-500 personnes, oui. C'est vrai que ça a plus lieu d'être dans les plus petites salles, comme tu le disais, les lieux qui a priori ne se dédient pas à ça de base, comme des restaurants, ça on le fait beaucoup, des bars, etc.
Les restos, c'est... Oui.
Mais on a aussi des très belles salles à Marseille, on embrasse aussi, notamment Isabelle et moi, on a beaucoup été à l'Art du Théâtre.
Tout à fait, l'Art du, on les salue, Copenhague.
Une belle installation dans laquelle ils ont investi, lumière, son, etc. Donc c'est sûr que dans des salles comme ça, qui sont des salles de théâtre finalement, là on a le noir complet, on a les éclairages qu'il faut, on a le son qu'il faut, tout le monde est là pour ça, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans des bars, c'est double challenge de savoir capter l'attention, faut être à droite.
Ça c'est intéressant. Sandrine qui voulait dire un mot ou deux?
Ben non.
Okay, il y a pas de soucis. 8h27 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste 12 minutes avec donc.
Alors comme disait la comique, mon père m'a dit que maintenant, les gens ne me payeraient plus pour m'entendre parler, parce qu'elle était professeure à la base. Je ne sais pas si vous connaissez cette réplique.
Pas du tout.
C'est je ne me souviens plus le nom de cette comique qui...
Je t'en prie, Richard.
C'est pas grave.
Désolé, je voudrais, mais...
Et en fait, elle était professeure des écoles, son père directeur. Bon, elle se fait virer, tout ça, par son père. Et son père lui dit... plus personne te payera pour t'écouter. Mmh. Et donc, elle s'arrête et elle regarde le public.
Ok.
T'as compris?
Merci. Merci, Richard. Un mot
sur... Mais quand même, c'est une personne qui l'écoute.
On la
payera.
Note, oui. On la dira pas.
Pas samedi, une prochaine fois. Je la garde plus tard, moi.
On y reviendra, Richard. Un mot sur le programme. Festi Art, un mot sur le programme. Le stand d'artisanat et d'art au féminin ouvre ses portes à 18h, c'est important. L'entrée est libre. On vous rappelle, c'est full complet pour aller voir nos comédiennes du jour. Mais justement, il y a ce festival aussi en introduction. Moi, à l'époque, j'avais même acheté une jolie lampe que j'ai toujours artisanale, là, très sympa. Jane Parisi, Elodie Jasinski, Isabelle Jullet, Valérie Barbet, Aminé Manquian, KMN, ça c'est les sacs, et la Renarde Inès Forever seront présents. Donc vous pouvez acheter, c'est fait toujours avec beaucoup de talent, de tact, et surtout avec le volet artisanal. Et donc c'est dès 18h, donc vous pouvez y aller en amont du spectacle. Il y a, vous verrez, une très bonne ambiance. On discute, on croise, et puis on peut être aussi avoir des coups de cœur pour ces stands d'artisanat et d'art au féminin, je le rappelle, à 18h. Est-ce que vous connaissez un petit peu votre programme précis? On démarre, alors moi je l'ai, mais c'est important de le rappeler. On rappelle que c'est Benji Dotti qui est un imitateur, humoriste et chroniqueur, qui va donc... j'allais dire, oui, orchestrer vos productions et en tout cas vos scènes. On démarre par qui? On poursuit par qui? On finit par qui? Est-ce que vous avez le timing là?
Allez. Non, on ne sait pas encore.
Pas du tout.
On
sait pas encore. C'est la surprise. On va tirer à la courte paille.
Certainement, on va en parler quand on sera toutes les quatre réunies, parce que on redit encore, il nous manque Misogyne qui pouvait pas être là ce matin.
Tout à fait, on la salue.
Donc on va peut-être voir aussi le jour J. Des fois, c'est aussi comment on sent le jour J. Là, on se connaît toutes en plus. Eliane nous fait totalement confiance, donc elle nous a proposé d'en discuter entre nous, ce qui est chouette. Donc,
vous avez fait déjà les répètes. Combien va durer votre spectacle globalement?
Moi, je vais avoir une dizaine de minutes, je pense entre 8 et 10 minutes.
8 et 10 minutes, ouais. Pour Sandrine, Isabelle.
Pareil pour toutes les quatre.
Ouais, je crois que c'est pareil pour toutes les quatre. Oui, justement, se laisser à peu près le même temps de parole. Ça reste du spectacle vivant. Donc, quand on sent, si à 9 minutes, on est à son climax, c'est bien de partir à ce moment-là pour faire plaisir au public, pour se faire plaisir à soi. Mais en gros, on nous a donné la consigne entre 8 et 10 minutes. C'est vrai que la question du temps est toujours très importante dans les spectacles. Et en plus de ça, donc, on a une petite interview sur scène avec notre présentateur.
Oui.
Une petite interview sympathique, rigolote, qui sera partie intacte du spectacle.
Bon, mais très bien. On rappelle qu'il y aura la présence aussi d'une chanteuse, Angélique Dessin, qui sera présente et qui va partager quelques chansons et qui vont certainement transporter l'émotion du public. Voilà, ça, c'est
et n'oublions pas qu'il y a aussi une petite buvette sur place. Ah,
toujours, très important.
Exactement.
Bon, je le signale quand même parce que
avec modération.
Un parking, un grand parking, une buvette, bon, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que...
Il y aura nous, en plus.
Magnifique soirée, à la buvette. En perspective.
On n'en doute absolument pas, mais c'est important de le rappeler. Voilà, c'est facile d'accès. Et vous verrez une ambiance, une chaleur humaine qui est extrêmement sympathique. On a parlé des choristes du Divin Gospel. Et puis évidemment, on parlait tout à l'heure du maître de cérémonie, mais j'ai envie de dire que la vraie maîtresse de cérémonie, c'est quand même Eliane Zayan. Voilà, on est d'accord ou pas?
Oui, patronne.
Voilà, et on la salue, on l'embrasse, Eliane. Il nous reste 8 minutes avec Festifam, on le rappelle, ce samedi à la Confluence à Auriol. Mesdames, on va vous donner la parole pour poursuivre un petit peu votre complicité avec ce festival et cet amour aussi pour le stand-up. Est-ce que c'est aujourd'hui un vrai tremplin, en tout cas Festifam? Comment vous envisagez l'après-Festifam? Quels sont vos projets qui gravitent autour? On sait qu'on peut vous voir sur certaines scènes, où c'est qu'on peut vous retrouver? Voilà, parlez-nous de vous.
Oui, c'est important, on sait qu'on peut vous retrouver,
voilà,
alors après.
Voilà. Lisa, on le rappelle, Mapola, Sandrine Galliano,
moi,
et donc Isabelle Guillot.
Tous les dimanches matin à la messe de mon quartier.
Mais... Un peu plus fort, un peu plus fort, Sandrine.
Mais sinon, je voulais dire aussi que je fais partie d'un collectif qui s'appelle So Comédie. Qui est dirigé par Sébastien Bugéja, avec qui je travaille depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, on aura une prochaine date. On a l'habitude de jouer au phare, et on aura une prochaine date le 26 avril. Voilà, c'était l'occasion aussi de dire ça. Voilà.
Pour ma part,
je vous en prie.
Pour moi, Lisa Mapola, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là où je partage la plupart de mes dates. J'ai la chance de jouer chaque semaine en général, un peu partout à Marseille, en région PACA, dans plein de lieux. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans des bars, dans des restos, dans des gens qui prennent des initiatives dans des lieux comme ça. Des fois, dans des lieux même bien reculés en campagne. J'adore aller jouer dans ce genre d'endroit aussi où on a moins l'habitude d'avoir du du spectacle vivant, donc c'est très rigolo aussi. Et puis les comédie clubs qu'il y a sur Marseille. J'ai mon propre spectacle également d'une heure qui s'appelle Tant mieux, que j'ai pas joué maintenant depuis quelques mois, que j'ai voulu mettre en pause, mais que je vais reprendre dans très peu de temps, dans un nouveau lieu, dans un nouveau comédie club qui va ouvrir sur Marseille. Donc on leur fait un petit bisou aussi. C'est le Marseille Comédie Club qui va ouvrir fin mars. Et donc,
C'est important de le rappeler, ça. Oui. Ça, c'est un vrai tremplin. Mais vous reviendrez en parler, en tout cas. Nous, on vous accueillera. Radio Galère, c'est la radio des stand-uppers et stand-uppeuses aussi. Donc, quand il y a des nouveautés, vous êtes évidemment les bienvenus. Il nous reste 5 minutes, on profite encore de vous. Donc, ça, c'est fin mars, c'est le nouveau.
Le nouveau Comedy Club, c'est fin mars. Moi, on va bientôt caler ma nouvelle date, mais il y aura une récurrence pour mon spectacle, tant mieux. En attendant, si vous voulez me voir sur des petits formats, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Lisa Mapola.
Parfait, impeccable. Isabelle.
Moi aussi, Instagram, c'est quand même notre vitrine, donc je ne ferai pas l'économie de donner mon Instagram. Pitié, s'il vous plaît.
C'est notre carte de visite.
Isabelle Guillot, comme les sirops, maison Guillot. J'essaye de me faire sponsoriser, j'ai le droit ou pas de le dire ça?
Ici, j'ai tous les droits.
Pareil, des plus petits plateaux, des moyens plateaux.
Et qu'est-ce que vous pensez de Vix alors qu'il s'est...
Du Vix qui ouvre, oui. Oula, c'est un sujet parallèle, ça, c'est une conversation connexe. Ben, ça fait un nouveau lieu qui ouvre à Marseille,
c'est
et c'est toujours bien en fait.
Non mais voilà, tu as dit exactement ce qu'il fallait. C'est un nouveau lieu, c'est encore plus, et Marseille se développe de plus en plus dans tous ces domaines. Donc on aime ou on n'aime pas, on apprécie pas, bon ça c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la diversité, et de plus en plus ça s'ouvre. Donc c'est bon pour vous, c'est bon pour le public.
Ça, pour le public, c'est ça, c'est que ça fait un nouveau lieu, donc ça veut dire que ça permet au public, à plus de public encore, un public peut-être différent, d'aller voir du stand-up, et c'est la machine qui s'auto-alimente après. Plus les gens vont voir du stand-up, plus ils en parlent, et plus nous, ça nous fait du public. Et sans public, ça marche moins bien.
Et toi, on te retrouve où, Isabelle?
Mais où
en suis-je? En plus d'Instagram.
J'ai ma première date de mon premier spectacle. J'ai 3 dates d'ailleurs. Et la première, c'est le 21 mars à l'Art du Théâtre. Mon spectacle s'appelle Loufoque. Et sur l'affiche, j'ai un t-shirt avec un loup et un phoque. Voilà, pour les amoureux du jeu de mots et de l'image.
On imagine.
Donc,
déjà.
Je suis très contente. C'est à l'Art du Théâtre, le 21 mars à 21h. Oui.
L'ardu, mais impeccable, ça fait en tout cas.
Là, c'était super sympa. Si je ne me trompe pas, le propriétaire du théâtre, c'est un très bon professionnel qui a depuis très longtemps. Il était, je crois, à la rue Sainte-Cécile avant. Mm-hmm.
C'est ça, qui a commencé comme régisseur et peu à peu a gravi les échelons jusqu'à ouvrir son propre théâtre où il a beaucoup sué pour faire les travaux et pour l'ouvrir, et ça a aussi beaucoup apporté au stand-up marseillais.
C'est sous forme de gradin, de façon à ce qu'on puisse voir bien comme
tout
il faut.
Tout à fait, hein. Très belle
salle.
Ce
qui est important
salle.
De le rappeler, voilà, on parle aussi de la culture et du théâtre. On dit que depuis 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, a servi de tremplin. Et le théâtre est accessible. On avait souvent des clichés réducteurs qui conduisaient à dire que le théâtre, c'était un peu le théâtre pour l'élite, pour les gens qui étaient aisés. Absolument pas. Et encore plus, j'ai envie de dire, à Marseille, où c'est extrêmement populaire, extrêmement accessible. Ça s'est bien démocratisé. Moi, je pense que depuis 10 ans, et ça continue en tout cas à prendre notamment une forme. Alors, sous la houlette du talent, parce que si on n'en a pas, c'est bien beau de développer, mais il faut du talent. Mais ça s'est organisé, ça s'est structuré. Alors, il ne faut pas s'appeler seulement, et Dieu sait si c'est un point, mais Gad Elmaleh pour ouvrir des comédies clubs à Marseille. Certains avaient beaucoup moins de moyens, avaient, entre guillemets, et c'est la réalité, moins d'impact médiatique, et ils y sont arrivés, et ça se développe, il y a des gens qui gravitent autour, il y a des connexions, on parle de la Ligue de l'improvisation, on parle des stand-uppers, il y avait le Field, je ne sais pas si ça vous parle, le Field.
Bien sûr, voilà. Ma deuxième scène, Field, gros bisous à eux.
Voilà, qui était, à l'époque c'était le dimanche, le premier dimanche,
oui,
c'est ça?
On devait s'inscrire tôt, on devait arriver tout tôt dans l'après-midi, voilà. Pour pouvoir être sur la liste, et on attendait.
Ah, c'était tard, non, c'est ça?
Ouais,
ouais, oui, c'est ça, je me rappelle. Moi j'étais venue en même temps que spectatrice.
Ah, donc, génial. Ah, après, ouais. Après il y a le chassé-croisé, justement, on utilise la scène, ça c'est sympa.
Alors, on rappelle que le spectacle est complet, hein, 420 personnes, hein, on n'oublie pas cela aussi. Alors, comment on fait pour l'année prochaine? On prend les places dès maintenant?
Pour l'année prochaine, ouais, pas loin. Hein,
faites la queue déjà, voilà, pour être sûr.
Faites la queue sur le... Vous allez directement à la mairie d'Auriol dès le lendemain. Et a priori, il y a peut-être des possibilités si vous faites tous les jours d'y être. Voilà, on le rappelle, tarif, c'était un tarif quand même unique de 15 euros. C'est important de rappeler le prix parce que 15 euros pour une soirée aussi riche, pleine de talents, mais en plus d'émotions. Il y a un entracte avec buvette. Service de la culture, pour avoir des infos, vous tapez mairie-auriol.fr. Il y avait les billets qui étaient en ligne sur ticketmaster.fr. Et évidemment, on vous le rappelle, ce samedi, c'est donc Festifam pour mettre donc en avant les journées des droits de la femme, mais surtout l'art, je cite, et l'humour au féminin, samedi 8 mars. Alors en plus, c'est cool parce que ça tombe pile poil, le soir. Ouais. C'est pas toujours le cas, forcément.
Alors moi, j'évite l'ensemble des personnes à regarder sur YouTube Magali Ponsada.
Oui.
Qui est avec le groupe de gospel, qui est un groupe de gospel, je crois, marseillais. Hein, oui. Faut le
exactement.
Dire aussi,
hein,
c'est bien. Et qui va vous faire l'ouverture du spectacle. Et écoutez cette grande dame qui a une voix, mais alors phénoménale, vraiment magnifique.
Merci en tout cas.
Déjà, le ton est lancé, mesdames.
Mm-hmm. Et on
a. Je vous présente.
Voilà, c'est lancé et c'est parfait. On vous laisse le dernier mot à chacune, vraiment en 10 secondes, s'il vous plaît. Allez, on va le faire dans l'ordre. J'allais dire l'ordre. Pas chronologique, parce que sinon, Isabelle... on y va avec Isabelle, on démarre. Ensuite, Sandrine et Lisa pour conclure.
Un dernier mot. Oui. Double fierté, là, pour moi, même triple fierté, de raconter à Radio Galère que je vais participer à ce tremplin, à cette belle expérience qu'est Festifam. Et en plus, une semaine après, de faire la première de mon premier spectacle.
Avec
deux semaines après, donc... Que de fierté.
Parfait, ça sera le 22 mars, on le rappelle.
Le 21.
Le 21, vous vous rappelez le lieu ?
À l'Art du Théâtre.
À l'Art du Théâtre. Merci Isabelle. Sandrine, merci. Notre littéraire.
Ouais, non.
théâtral.
Ouais, et moi je suis super fière de participer à Festifam et super fière de moi aussi, puisque un an après m'être lancée dans l'aventure, je me retrouve là, donc je suis super contente et de passer du temps avec des nanas trop chouettes, quoi. Donc je suis trop contente.
Bah, voilà. Génial. Elisa, Dora.
Dernier mot, Dora.
Dora l'exploratrice.
Tu as ça cadeau ? Non, je vais dire pour mon dernier mot. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure pour clôturer, Anto. Donc, de plus en plus de femmes dans l'humour, c'est vrai. De plus en plus, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, on est plus de femmes. Mais le tout, c'est de nous laisser aussi la place. On est plus nombreuses et pourtant, pour autant, on ne nous laisse pas forcément la place. Donc, merci Festifam de nous laisser cette place et on a hâte. Merci beaucoup.
Merci mille fois. Je bois tes paroles.
Écrire un livre sur Festifam.
J'ai déjà écrit une pièce de théâtre.
Pour un prochain épisode.
Exactement. En tout cas, je bois tes propos, Lisa. C'est extrêmement bien cité. Allez, justement, elles vont mettre le feu ce week-end, Festifam. Kenny Girac avec Vianney, c'est le feu tout de suite sur les ondes Radio Galère. Et donc, dans 4 à 5 minutes, Fabrice Aubert, que vous connaissez, comme tous les premiers mercredis de chaque mois, il est avec nous. Notre géopoliticien contestataire d'économiste marxiste, il est avec nous. Il va nous parler de la Russie, des États-Unis, de l'IA. Il en a marre. Il dort peu parce que son cerveau est extrêmement axé sur la réflexion et la déception politique. Il est avec nous dans quelques minutes après le feu de Kenji Girac et Vianney. Merci Isabelle.
Merci.
Merci Sandrine. Merci Lisa.
Merci.
Au plaisir
merci,
de merci. Vous revoir.
Bisous Radio Galère.
Pause musicale.
La última vez. Loquilla, vamos.
J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi? Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne la protège les braises.
Je te fais la promesse.
siento. Quiero que sepa mi deseo. No puedo mover las nubes, pero ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Tierra solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción, porque cuando hará frío ha hecho un fuego ardiente. Du meilleur de moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je t'ai fait la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu.
De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu. De moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu.
Feu sur les ondes de Radio Galère 88.4. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée au dossier central, à savoir Economicus d'Economicus, première émission, tous les premiers mercredis de chaque mois, et première émission sans notre Dany Bruet, qui, vous le savez, a quitté le monde du militantisme et qui a quitté, alors heureusement, quand je dis quitté physiquement, en tout cas moralement, mais il est évidemment toujours présent, on le salue, on l'embrasse, il va peut-être écouter l'émission, il aura le podcast probablement. En tout cas, on le salue, il nous manque, parce qu'on avait toujours les annonces de Dany qui démarraient, on avait 7-8 minutes parfois, et c'était extrêmement alléchant et intéressant. Il est plus avec nous, mais je tenais à le signaler. On est toujours en direct sur les ondes du 88.4 de la bande FM, le www.radiogalère.org, et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. Anthony au micro, Richard évidemment toujours fidèle au poste, et donc Fabrice Aubert, que je ne présente plus, mais que je me dois malgré tout de présenter pour ceux qui prennent l'émission en cours. Ça fait plus de 4 ans que Fabrice est avec nous tous les premiers mercredis de chaque mois. Et pour le coup, c'est extrêmement rare de le retrouver sans Dany. Ça arrivait quelques fois, mais c'est extrêmement rare. Ça va être, a priori, une habitude prochainement d'être en solo. Mais on va dire qu'il réfléchit aussi en solo toute la nuit, toute la journée. Donc il a l'habitude de réfléchir seul et de se produire seul. Bonjour Fabrice Aubert.
Auditrices, aux auditeurs et à toute équipe de Radio Galère qui me permet, c'est un espace de liberté pour moi, de pouvoir déclamer un certain nombre de choses qui ne sont pas racontées dans les médias dominants.
Exactement, on le sait, les médias de masse parfois occultent certains dossiers, ou en tout cas orientent l'information. Alors on n'est pas là pour crier à la théorie du complot, pour être des pro-Mediapart ou des pro-ci ou des pro-là. Malgré tout, on aime bien que les choses soient dites. Chacun a le droit d'avoir un angle plus ou moins satirique, contestataire. Vous êtes d'accord avec Fabrice, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord avec Fabrice, c'est bien aussi. Sachez-le, voilà, c'est important de le rappeler. Il nous a prouvé parfois, par A plus B, que ses éclairages étaient extrêmement bien menés et qu'il envisageait et présageait certaines choses. On voit par exemple voilà, la rencontre qui a eu lieu entre... tu vas m'aider évidemment, Trump, on en a fait beaucoup d'ailleurs ces derniers temps, et Medvedev,
Poutine.
Et Poutine ces derniers temps.
Ils ne sont pas encore rencontrés. Hein,
c'est... Non, c'est, je ne parle pas de la rencontre Poutine, je parle de la rencontre entre l'Ukraine, j'ai oublié son nom, tu vas m'aider.
Zelensky,
c'est quand même incroyable, je le dis quasiment toutes les semaines, je l'ai oublié. Et Poutine et... Ouais. Et donc Trump qui a eu lieu en début de semaine, si je ne dis pas de bêtises.
C'était de la comédie, tout ça.
C'était de la comédie, de la communication, exactement. Mais en tout cas, voilà, on y est. On va parler de la guerre, on parle de la conjoncture, on parle du système féodal. En tout cas, c'est la trame de ce matin, c'est le techno-féodalisme-capitalisme. Alors, il faut décrypter un petit peu pour les auditeurs et les auditrices qui se disent « Mais ça veut dire quoi? J'y comprends pas. » Bon, nous, on a un PDF, on a pu voir et collecter les informations avec Richard. Vous, c'est pas le cas. Tu veux démarrer avec la guerre et la conjoncture. On parlera de l'IA aussi, l'intelligence artificielle. On l'évoquera avec Fabrice, avec Richard aussi, pour donner son avis un petit peu sur l'intelligence. On en a besoin, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit prédominante. Il ne faut pas oublier peut-être la masse humaine quand même, qui a un rôle précieux. Hein. La machine ne doit pas dépasser l'homme. Et parfois, on s'y perd un peu, Fabrice Aubert.
Oui. Alors, tu sais, traditionnellement, je commence par une sentence d'un philosophe, d'un romancier. Et là, ben, c'est en articulation avec l'actualité. La paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. C'est de Albert Camus. Et je pense que ça correspond exactement...
C'est dans L'Étranger, peut-être, il me semble, l'actualité. Cette phrase.
Oui, c'est fort possible.
Ouais, il me semble.
Alors, je avant d'attaquer le techno-féodalisme, mais on verra que... C'est pas si compliqué que ça. Enfin, j'espère en tout cas pouvoir le rendre le plus accessible possible. Je veux revenir sur cette question de guerre parce que le mois dernier, je vous annonçais pas au sens de Madame Irma, mais je vous démontrais le fait qu'il y aurait la grande défaite américaine. Et en fait, trois semaines après, tu as eu une rencontre au plus haut niveau entre trois dirigeants américains et deux dirigeants russes, dont Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, qu'on a toujours pris pour un con, et qui, en fait, est quelqu'un de très intelligent, et qui, depuis longtemps, dans le système diplomatique, si tu veux, l'avantage de la Russie, c'est que ses dirigeants ne changent presque pas. Donc l'orientation politique est toujours la même, et s'assit sur des certitudes, alors que... l'inconvénient des États-Unis et que peut-être que Trump a vu et qu'il est en train de modifier, on pourra en discuter, c'est que tu as ce qu'on appelle, et que j'ai découvert, parce que je ne le connaissais pas, je le reconnais, je ne l'avais pas vu, ce qu'on appelle le deep state. Le deep state, c'est l'état profond. Et l'état profond, c'est quand l'administration, la bureaucratie administrative et technique dicte aux politiques. Et ça s'explique par le fait que...
Non, ça veut dire que la politique ne peut pas jouer pleinement son rôle puisqu'elle est dictée par une autre orientation.
Voilà.
Et donc on va élire des gens qui au final sont sous la houlette d'autres...
Des marionnettes.
Des pions.
Et d'ailleurs, pour moi, maintenant que j'ai... Sur 3 ans, je pense que j'ai bien cerné la question de la guerre. En fait, c'est la momie Biden qui est cause du déclenchement de la guerre. Si Trump avait été élu, il l'a dit, hein. Si Trump avait été élu, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Et je pense qu'il a raison. Parce que c'est le deep state qui a décidé de la guerre. Pas les présidents en tant que tels. Enfin, je veux dire que Biden Alors, faut savoir, hein, Biden, je vous conseille d'aller regarder sa fiche sur Wikipédia, vous verrez, c'est un croyant mystique. Donc, c'est un starbé de la tête. Lui, c'est Dieu au-dessus, et la croyance. Mais, c'est lui qui a déclenché la guerre en Ukraine. Trump aurait pu l'empêcher parce que Trump aurait négocié. Alors, je vous rappelle que j'avais dit, donc il y a un mois, qu'il y aurait une grande défaite américaine. Je pense que cela s'est vu. C'est aussi, ce qui s'est passé, c'est-à-dire la demande de rencontre des États-Unis pour négocier la paix avec la Russie, est en même temps la démonstration du fait matériel que la guerre n'était pas ukrainienne, mais elle était bien russo-américaine, et que l'Ukraine n'a servi que de bac à sable. Observe que dans le même temps, et ça c'est très intéressant à voir...
Ça c'est, on rappelle, depuis 3 ans en tout cas, que la guerre a démarré entre l'Ukraine et la Russie.
Voilà, mais ça n'a servi que de bac à sable. Et si tu veux, dans le même temps, Trump, il règle son compte aussi avec Taïwan. Il dit, lui, dans son option stratégique, Taïwan, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que c'est problématique. C'est fondamentalement, et c'est la raison pour laquelle il veut à tout prix négocier avec les Russes la paix. C'est que, et tout le discours qui est tenu aujourd'hui disant que Trump est devenu un ami de Poutine ou que c'est un agent du KGB FSB, c'est de la propagande pure qui n'a rien à voir avec la réalité. En fait, Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, et il a fait les comptes. Qu'est-ce que me coûte la guerre ? Qu'est-ce que me rapporte la guerre ? D'où sa demande de négociation pour la possession des terres rares en Ukraine. Et il a fait le solde et il a dit « ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça me rapporte, donc je veux la paix ». Et la paix va me permettre de faire le business que je veux, c'est-à-dire relancer l'Amérique, America First, et réduire les dépenses d'armement, parce que dans la négociation... Tu vas pas simplement qu'y avoir l'Ukraine, tu vas avoir Taïwan, et ça va être réglé, puisque Trump veut rapatrier la production de micropuces aux États-Unis et abandonner Taïwan. Donc ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, cette histoire. Et dans le même temps, il veut renégocier des accords de désarmement nucléaire. C'est-à-dire qu'alors que lors de son premier mandat, il était sorti des accords SALT qui avaient été signés à l'époque par Gorbatchev et Reagan sur le début du désarmement nucléaire, c'est-à-dire la diminution du nombre de missiles de chaque côté de l'Atlantique. Il était sorti de ça du fait du Deep State. Et là, il a nettoyé l'administration américaine au plus haut niveau. Tu as vu qu'il a limogé au Pentagone. Et il veut faire la paix et il veut réduire les dépenses d'armement parce que le budget américain pour le moment, c'est 800 milliards de dollars qui correspond au niveau du déficit public. Et donc, à partir de là, ça va lui permettre de retrouver, par la baisse du budget militaire, une respiration des moyens financiers qui vont lui permettre de relancer son économie.
Intéressant. 8h58 sur la zone de Radio Galère, toujours en direct avec Fabrice Aubert, Economicus d'Economicus, pour parler de ce volet géopolitique. Un mot, Fabrice, avant d'attaquer, puisqu'il nous reste que 25 minutes, le temps passe vite. Je me fais un petit peu le porte-parole de certains. Richard aura des questions forcément par la suite. Comment tu analyses la suite entre l'Ukraine et la Russie, et j'ai envie de dire avec l'Europe qui s'y mêle et avec les États-Unis ? En quelques mots, est-ce qu'on peut se dire que ce conflit va s'arrêter incessamment sous peu, ou est-ce qu'il est on va poursuivre dans cet élan et ça va se développer encore de manière assez néfaste?
Bah, on va repartir de ce qui s'est passé dans le bureau ovale entre Zelensky et Trump.
Oui.
Tu sais que c'est Zelensky qui a demandé à ce que ça soit filmé en direct.
Oui, oui.
Et tu sais que Zelensky, c'est d'abord un comédien à l'origine.
Un militaire, mais un comédien.
Ouais. Wow. Et en fait, il nous a joué la comédie. La comédie de l'homme indépendant, il a été au sommet de Londres.
Trump l'a taclé, hein. Il a remis en place.
Normal, parce que c'est les États-Unis qui, depuis le début, font que la guerre s'est pas arrêtée. C'est les États-Unis qui, par la fourniture des armes, des satellites, de l'information et du renseignement, parce qu'il y avait 12 bases américaines de la CIA en Ukraine pour donner les informations sur la situation de la Russie. Donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc si tu veux, Trump, il a juste rappelé que sans les États-Unis, il n'y avait plus de guerre en Ukraine. Il suffit que Musk coupe Starlink pour que l'utilisation des drones ukrainiens s'arrête. Et ce sont les, on peut dire que c'est une guerre d'anticipation et qui renvoie à Star Wars sur la guerre des drones. Cette guerre, c'est à la fois une guerre de tranchées et une guerre des drones. Donc tu vois un peu le mix de l'histoire, là, où tu as eu un film de science-fiction Star Wars, qui s'appelle d'ailleurs La guerre des drones. Il n'est pas dit que les historiens, dans 20 ans, n'appellent pas cette guerre la guerre des drones. Parce que tu comprends, c'est ça qui s'est passé sur le terrain. Y compris les chars étaient détruits par les drones. Un truc qui vaut 200 euros, quoi. C'est un truc de fou. Mais donc, ce qui s'est passé dans le bureau ovale et le fait que les États-Unis, 48 heures après, et pas que Trump, hein, avec son équipe, et qu'on précise bien les choses, je suis très loin de Trump. On est bien d'accord. Bon,
on est politiquement, bien d'accord.
Je suis très loin. Mais il a dit, si vous continuez comme ça, j'arrête les fournitures militaires. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre 24 heures après le sommet de Londres, qui disait, qui faisait du blabla, qui jouait au caniche, qui aboie, on a appris hier soir que Zelensky avait écrit une lettre d'excuse au président Trump et est prêt à signer le contrat sur les terres rares et à négocier un contrat de paix avec la Russie sans engagement des États-Unis sur la sécurité, puisque Trump te dit depuis le début, moi je sais que dès lors qu'on signe un traité de paix, il n'y aura pas de reprise de guerre par la Russie. Du moment que les conditions russes, c'est-à-dire désarmement d'Ukraine, interdiction à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, plus évidemment les terres qui ont été conquises restent propriété de la Russie, la paix est signée.
Est-ce qu'on est optimiste sur potentiel arrêt de la guerre ?
Alors, oui, entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, parce que l'Ukraine est obligée... Enfin, Zelensky, qui a joué la comédie jusqu'au bout, là, on vient de voir l'arrière-scène, et il a bien compris qu'il était à poil, qu'il pouvait pas se battre, donc il va aller vers la signature d'un traité de paix avec la Russie en présence des États-Unis. C'est ça qui va se passer. Mais par contre, le problème, c'est l'Europe.
L'Europe ? C'était ma question.
On est des ch'tarbés de la tête. Enfin, tu imagines, il y a 3 mois, il n'y avait plus d'argent pour les salaires, pour l'emploi, pour les retraites. Il fallait diminuer le budget. Et là, d'un coup, il n'y avait plus d'argent magique. Et là, l'Europe trouve 800 milliards d'euros parce que, tout simplement, selon l'expression...
On est bien d'accord que c'est complètement scabreux et complètement injuste.
On devrait faire une révolution. Comme en 17. Il y a de l'argent pour faire la guerre, il n'y a pas de l'argent pour les retraites. 800 milliards. Comme ça, là. Je te jette ça sur la table.
Et après, on nous parle des problèmes des conditions de travail, on nous parle de précarité, on nous parle, Fabrice, également de l'accès à la propriété, le pouvoir d'achat qui est en berne, le gel de salaire de certains fonctionnaires.
Le chômage.
Le chômage, la sécurité sociale, les hôpitaux. Enfin, voilà, c'est quand même, ça c'est quand même problématique, il faut le rappeler.
Non, 800 milliards.
800 milliards, c'est énorme.
800 milliards jetés sur la table pour des dépenses d'armement dont le seul objectif est de détruire l'humanité. Alors que les hôpitaux, c'est l'inverse. Si les gens comprennent pas qu'on les prend pour des cons, là, je peux plus rien. 800 milliards.
Ouais, c'est énorme. 800 milliards. 9h03 sur les zones Radio Galère. Alors, il fallait qu'on l'évoque. Je t'en prie. 20 minutes, il nous reste, Fabrice.
Parce que le mois d'avant, je vous avais alerté sur la conjoncture. Et qu'est-ce qu'on a appris le dernier trimestre ? Eh bien, on est en récession, moins 0,2% du PIB. Et je t'annonce qu'avec le budget austéritaire décidé par l'Assemblée nationale, puisque par abstention du PS, il faut le répéter, puisqu'il n'a pas voté la motion de censure, et que de ce fait, le budget a été adopté, eh bien, on va constater au premier trimestre 2025, c'est écrit, un nouveau trimestre de récession. Pourquoi ? Imagine que le budget était construit sur une perspective de croissance de 1,2%. Aujourd'hui, c'est plus un 2 qui est dit. c'est 0,8. Et tu as là un trimestre négatif. Et le premier trimestre 2025, quand on aura les chiffres, moi, je te mets ma tête sur le bio, il sera négatif. D'autant plus que les fameux 800 milliards...
Oui, c'est fort probable, oui.
800 milliards pour l'industrie d'armement vont pas pouvoir se débloquer d'un coup et que tu n'auras pas d'un coup 800 milliards d'investissements dans l'industrie d'armement. Ça va arriver, enfin, s'ils le font, ça va arriver dans 6 mois, 1 an, à peu près. Hein, parce qu'il y a des délais nécessaires. Hein. Donc, tu auras une récession dans notre pays qui s'accompagne de la récession en Allemagne. Or, ce sont les logiques de récession qui ont conduit l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne et le régime de Vichy. Allez, on passe à l'intelligence artificielle, parce que moi, je suis une vraie intelligence et pas artificielle. Alors, je t'ai dit d'ailleurs hier par courriel, hein, on dit tout aux auditeurs, que l'intelligence artificielle, c'était très simple, puisque de toute façon, il faut arrêter d'utiliser des grands mots. L'intelligence artificielle n'est pas une nouvelle révolution. Il s'agit juste de la poursuite de ce qu'on appelle la révolution, enfin de ce que le système appelle la révolution numérique, que moi j'appelle, enfin que les marxistes appellent révolution informationnelle. On y reviendra. Par contre, le capital, comme toujours, va s'en servir pour supprimer des emplois en vue d'optimiser les profits. Là, tu peux prendre l'exemple des caisses automatiques. Tu sais qu'à terme, tu auras des magasins sans personnel à bord, puisque tout sera réglé de manière numérique et automatique. Tu prends ton caddie, tu circules dans les trucs, et dès que tu mets un produit dans le caddie, paf, c'est débité sur ta carte, automatiquement. C'est ça l'avenir. Donc, l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. Ce n'est que d'immenses ordinateurs améliorés, parce que maintenant, tu as ce qu'on appelle le numérique quantique, hein, qui est une adaptation de la théorie, de la physique quantique. Alors, la physique quantique, faut savoir, on pensait depuis les Grecs que la particule la plus fine...
On va peut-être pas rentrer dans ça,
c'était
Fabrice.
L'atome.
Oui.
Hein. Et ben, on s'est rendu... L'atome était non sécable. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des choses en dessous de l'atome.
Exactement. On y reviendra. Alors, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, évidemment, de ton analyse.
Alors là, en plus, tu vois, c'est ma passion, parce que ça a été mes thèses de recherche à l'université. Il y a eu un livre qui a été sorti par la CFDT qui s'appelait « Les dégâts du progrès ». Et on voit sur l'image toute une installation chimique et l'homme est derrière. Et en fait, l'homme est sur la photo placé en arrière-plan, comme écrasé par la machine ou pour le moins dominé. D'où les dégâts du progrès. La photo représente exactement ça, c'est-à-dire c'est l'homme derrière et écrasé par la machine. Comme la société doit s'adapter à la mondialisation. Et là, il faut passer à Marx. Il faut penser au numérique et à son extension, l'intelligence artificielle. Marx nous dit « Les machines sont les armes utilisées par les capitalistes pour réprimer les révoltes des ouvriers spécialisés. » C'est-à-dire, quand il y a révolte ouvrière du fait d'utilisation des machines qui se fait contre les hommes, alors tu as révolte et révolution. Je ne développe pas. J'en viens au techno-féodalisme. Alors moi qui suis marxiste, je m'en cache pas.
Parce que je pense s'il que te plaît, c'est... j'ai quelques retours. Il faut absolument qu'on t'entende bien face au micro, s'il te plaît. On veut t'entendre.
Donc le techno-féodalisme, capitalisme, il faut bien comprendre. Il faut partir dans l'histoire. Dans l'histoire, au début, c'était l'histoire des tribus, l'histoire tribale. Et en fait, dans les tribus, il n'y avait pas d'outils qui appartenaient à un individu. C'était les outils de la tribu. Comme la chasse, elle était partagée par les hommes et les femmes. Les femmes ne s'occupaient pas de la cueillette. Elles s'occupaient de la chasse. Avec les hommes, il y avait une égalité absolue. On est passé à un système qui était le système capitaliste. Comment ? Ben c'est pas le système technique qui a fait le capitalisme. La première révolution, c'est d'abord une révolution sur l'énergie. C'est-à-dire, on est passé de l'énergie humaine, des esclaves, ou les bêtes qui tiraient les charrues, à une énergie machine. Avec, au début, de la vapeur, les premières machines à vapeur pour le train, puis après, du pétrole. Et souvent, les libéraux disent qu'il y a une deuxième révolution industrielle, qui est la révolution technologique. Pour les marxistes, ce n'est pas le cas. Ce qui est appelé la révolution technologique, ce n'est que la systématisation de la révolution de l'énergie. C'est-à-dire comment tu construis un système technique qui va utiliser l'énergie. Donc le système technique est la suite de la révolution industrielle qui est une révolution énergétique. Comme si tu veux, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle n'est que le prolongement de ce qui est appelé la révolution numérique. Et ce qui crée le capitalisme, ce n'est donc pas le système technique, mais c'est la loi Le Chapelier de 1791 qui transforme l'artisan, qui était propriétaire de son outil, en quelqu'un qui n'est plus propriétaire que de sa force de travail. On le dépossède de ses outils, le dépossédant de ses outils, il devient un salarié dépendant des entreprises. Et alors, le capitalisme se développe de manière assez simple, c'est qu'il faut de la matière première, il faut du terrain, un bâtiment, des machines, de la matière première, de l'énergie et des hommes. Et cette association de forces productives matérielles et forces productives humaines, pour reprendre les termes de Marx, va permettre de fabriquer des objets qui, amenés sur le marché, vont être vendus et vont permettre de récupérer le capital avancé, c'est-à-dire l'argent qui avait été nécessaire à l'investissement. Et c'est de là que découle le profit. Alors que dans le cas du féodalisme, la noblesse et la haute bourgeoisie tiraient leurs revenus de la possession des terres. Le féodalisme est fondé sur la possession des terres. Le capitalisme est fondé, du fait de sa recherche de profit, par l'exploitation du travail. Est-ce qu'on comprend bien la différence ?
On comprend bien, et tu as bien décrypté, évidemment, l'interprétation qu'on peut en faire.
Alors, ce qu'introduit la révolution numérique, que moi j'appelle révolution informationnelle, c'est quoi ? C'est le fait que tu passes à un système technique, pas autre chose, qui est le numérique. Le numérique, en fait, pour le dire simplement, auparavant, quand l'homme fabriquait, l'outil de communication entre l'homme et la machine, c'était la main. Il fallait une main pour tenir la pelle, la pioche, ou le marteau-piqueur, ou encore la machine-outil pour faire des soudures. Hein. Et il fallait une intervention humaine, manuelle. Donc la main était le prolongement de la volonté de produire. Avec le système numérique, ce n'est plus la main, c'est le cerveau. Puisque l'intermédiaire, l'interface, c'est un système d'information. Quand tu pilotes un ordinateur, tu pilotes un système d'information. Par l'intermédiaire d'un clavier, ou encore plus moderne aujourd'hui, par l'intermédiaire de la voix. Puisque ça existe aujourd'hui. Oui, oui. Quand tu utilises ton smartphone, tu peux demander des informations par la voix.
Oui, donc ta télé également chez
la
toi.
La télé. Voilà. Alors moi je fais pas, hein. Mais bon, je reste. J'ai besoin un peu comme Macron d'un contact tactile.
Ça se comprend aussi.
Et c'est très important à comprendre puisque si tu veux, ça peut permettre de supprimer toutes tes tâches qui étaient pénibles de port d'outils, etc. Puisque si tu veux, le système technique devient complètement automatique. C'est ce qu'on appelle la robotisation. Alors, l'un des problèmes qui se pose dans le système numérique, c'est l'utilisation, c'est-à-dire tu peux supprimer des postes d'emploi. Mais ce n'est pas la machine qui supprime des postes d'emploi. C'est le capitalisme dans sa volonté de profit. Hein. Ne confondons pas la machine qui n'y est pour rien et qui pourrait au contraire permettre de libérer les tâches humaines, réduire le temps de travail, à la fois dans la journée et dans la vie, c'est-à-dire que tu partes à la retraite à 60 ans et peut-être plus tôt, parce que c'est ça la réalité. Si tu as un système technique qui vient remplacer toutes tes tâches humaines, tu n'as plus de salariés, tu n'as plus de salaires, et donc tu ne peux plus avoir de profit réalisé. Avec un système numérique qu'on appelle le cloud. Mais qu'est-ce que c'est le cloud ? Eh bien, c'est le nouveau terrain d'exploitation du capitalisme. Et dans le cloud, ou quand tu prends YouTube, qu'est-ce que tu fais ? Tu produis une vidéo. Quand Dany était avec nous, il faisait la vidéo de l'émission. Il la mettait sur YouTube. C'était gratuit ce qu'il faisait, tu es d'accord avec moi ?
Elle était relayée, interprétée, analysée, parfois, oui.
Et elle était mise sur YouTube gratuitement. Mais YouTube est financé comment ? Par des pubs. Des pubs qui sont visualisées comment ? Du fait des vidéos que tu mets. C'est-à-dire, toi, tu produis un travail gratuit, mais par contre, YouTube se finance par le travail gratuit que tu mets sur son propre site.
Et tu peux aussi, sans faire l'avocat du diable, produire quelque chose de gratuit et en récupérer aussi un attribut financier si
alors,
tu
y
fais.
Il y en a qui font ça, mais bon.
Il y en a beaucoup.
Alors.
Il y en a pas mal.
Il faut aller jusqu'au bout. Regarde le système Apple. J'ai découvert ça en lisant les livres, hein, parce que mon analyse se fonde sur deux livres qui s'appellent de Yanis Varoufakis, tu sais, l'ancien ministre de Grèce,
et
qui a écrit « Les nouveaux cerfs de l'économie sur le technoféodalisme ».
Et de Cédric Durand,
qui est, alors, lui, c'est un économiste, on peut dire marxiste, très proche de la France insoumise, et qui était le premier à produire ce livre, « Technoféodalisme, critique de l'économie numérique ». Et donc, si tu veux, si tu prends le système Apple, on appelle ça un système ouvert, c'est-à-dire que le logiciel embarqué sur Apple permet aux utilisateurs de modifier le logiciel. Imagine des ingénieurs qui ne sont pas Apple, mais qui sont performants en numérique, qui utilisent le système Apple et qui disent « là, il y a une merde, je vais l'améliorer ». T'imagines que Apple va bénéficier de l'apport d'ingénieurs gratuitement qui vont améliorer son système, ce que aucune entreprise ne pourrait se payer autant d'ingénieurs que le système Apple qui est un système ouvert. Donc l'enrichissement d'Apple se fait par des ingénieurs qui ne sont pas payés et qui enrichissent le logiciel d'Apple. Et avec le cloud, il faut bien comprendre, et c'est l'image qu'il faut avoir, pourquoi ça renvoie au féodalisme ? Parce que le féodalisme, c'était l'exploitation des terres que les serfs cultivaient au nom du seigneur. Et bien là, tu retrouves la même logique, le cloud étant simplement le terme des nouvelles terres de conquête du capitalisme. Si tu prends Uber, observe ce truc qui est fou, qu'il m'a fallu du temps pour comprendre, mais ça y est, j'ai compris. Uber est une des sociétés les mieux cotées en bourse. Or, Uber n'est pas une entreprise capitaliste, mais une entreprise féodale. Je veux dire par là que, par exemple, quand tu prends un taxi Uber, le taxi qui pourrait correspondre au capital de Uber n'appartient pas à Uber, mais appartient au chauffeur de taxi qui, en plus, est obligé de l'entretenir, de la laver, etc., etc. Uber ne fait que...
Il y a aussi la livraison, hein. Uber Eats aussi, voilà, c'est le même principe.
Et ben voilà, ce n'est qu'une plateforme numérique, un cloud. Donc, le terrain d'exploitation est illimité. Et observe que dans le cadre de l'ubérisation, tu sors des contrats de travail classiques avec cotisations sociales, droit à la retraite et congés payés. Tu redeviens ce qui existait auparavant, qui était ce qu'on appelait le travail à façon. C'est-à-dire où on t'amenait le travail chez toi et où tu produisais et où le travail était récupéré le lendemain, parce qu'il était souvent fait le soir, parce que c'était des paysans qui travaillaient la journée au champ. Donc tu vois l'ampleur du truc. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as changé de système ou est-ce que tu es toujours dans le capitalisme ? C'est la question que posent Cédric Durand et Yanis Varoufakis, qui eux disent on n'est plus dans le capitalisme, on est dans le technoféodalisme où c'est le retour de la féodalité par l'utilisation et la maîtrise de l'outil technique.
Par contre,
Richard, moi, il nous reste 8 minutes.
Je vois une constante à tout ça. C'est l'être humain qui cherche toujours des solutions pour exploiter et gagner plus. Et ça, c'est la constante. Tu as fait un descriptif tout à fait parfait des évolutions de tout. Mais la constante, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut trouver pour exploiter, pour mettre en place l'exploitation? Et ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune évolution. Autant il peut y avoir des évolutions technologiques, etc. Mais là-dessus, je ne vois pas ce qui a changé. Voilà. Et c'est dommage. Il est temps que l'intelligence artificielle arrive à des progrès beaucoup plus importants pour qu'elle puisse réfléchir à la place de cerveau humain qui sont, il faut le dire, tordus, pour arriver à mettre notre système. Parce que là, tout ce que tu dis, c'est les pauvres qui payent. Dans tous les cas de figure, il n'y en a pas un qui dit « on a fait ça pour améliorer les pauvres ». Et les pauvres, bon, on voit que, par exemple, la politique américaine d'aujourd'hui, elle est pour elle. Eh bien, même pas pour les pauvres, parce que les pauvres, ils vont avoir des inflations énormes, et on voit déjà des changements d'opinion, Parce que les pauvres, ils sont plus pauvres quand ça augmente. Et ça, il y a toujours cette même logique. Qu'est-ce qu'on fait pour que les pauvres soient encore plus pauvres ?
Alors, je suis entièrement d'accord avec le constat que tu fais, à une exception près. Tu dis l'être humain ou l'homme. Je ne partage pas. Ce n'est pas l'être humain ou l'homme. C'est le capitalisme en tant que système qui s'est accaparé, mais comme toujours, les outils nécessaires pour le mettre à disposition de son profit individuel. Et par contre, le constat que tu fais est juste, c'est-à-dire qu'en tendance, les pauvres s'appauvrissent encore plus et les riches s'enrichissent encore plus. Je te rappelle la phrase de Victor Hugo, le paradis des riches est fait et est bâti sur l'enfer des pauvres.
Oui, mais ça, tu vois, c'est ce qu'il y a, c'est que, enfin, moi, vision personnelle, hein, petite taille, c'est vrai dans tous les pays, en Russie, en Chine, en Amérique, je vois pas un seul pays où c'est différent.
Non, tu peux pas être aussi absolu.
Non, mais je n'ai pas les témoyens
d'études. C'est son avis, son analyse.
Développement. Mmh. Mais je vois que, pour moi, ben, les pauvres, ils sont tous pauvres.
Il suffit de regarder une chose. Auparavant, c'était les Français qui allaient en Chine en vacances.
Oui.
Aujourd'hui, ce sont les Chinois.
Oui.
Donc ça veut dire que, avec tous les défauts que peut avoir le système chinois, et je suis pas un ami des dirigeants chinois. Mais, avec tout ce qu'on peut dire sur la Chine, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont les touristes et qui viennent en France et à Paris.
Les plus riches.
Oui, mais il y en a beaucoup.
Quel est le pourcentage
voilà, non, il y en a beaucoup.
Oh là là,
non, il y en a beaucoup.
Peut-être. Et,
si tu veux, la Chine a joué de manière intelligente. Elle a été au début reconnue par les États-Unis pour une seule fonction. Ça devait être les sous-traitants industriels des États-Unis.
Bien sûr.
Ils l'ont accepté. Ils ont joué au roseau, si tu veux.
Ouais.
Ils ont plié sous la force. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fait les smartphones. Donc, si la Chine fait les smartphones, il faut des techniciens, des ingénieurs. Il y a plus d'ingénieurs en Chine pour 1000 habitants qu'aux États-Unis.
Sauf que bientôt, avec l'intelligence artificielle, les remplacements de métiers vont se trouver vers les métiers les plus soi-disant nobles.
Hein, oui.
Et c'est plus le plombier qui va être touché, c'est eux. C'est-à-dire que tout va s'inverser dans l'exploitation.
Ah ben,
parce qu'après, si tu veux faire un truc d'avocat ou de notaire, etc., tu n'as plus besoin d'aller dans un bureau. Hein. Tu rentres sur l'intelligence artificielle, tu trouves tout.
Ah
hein.
Et c'est simple. Auparavant,
c'est intéressant ce que tu dis. Messieurs, il nous reste 4 minutes pour conclure ce dossier.
Il y a des changements qui seront effectués, mais différemment.
Oui, mais ça, une fois de plus, ça repose la question des interventions humaines.
Et oui.
Si tu laisses faire le système installera les machines comme il veut. Il faut observer à quel point le système est incompétent. Il y a une phrase qui dit, c'est un truc de fou et c'est un économiste hein, qui le dit. Les ordinateurs sont partout sauf dans les statistiques. Solo, c'est un économiste libéral.
Par là, il veut dire...
que les ordinateurs qui sont vendus comme étant l'outil technique qui permet l'optimisation de la production ne se retrouvent pas dans les statistiques effectives de la production et de la productivité. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire de l'homme juste un appendice de la machine, là où le système numérique nécessiterait au contraire le développement des hommes, de leurs compétences, c'est-à-dire une formation de haut niveau et qui se continue dans le cadre du travail. Ça, c'est un élément très important. Le rapport entre l'homme et la machine pour produire des biens est toujours le même. Tu pourrais utiliser l'intelligence artificielle dans une direction, soit administrative, publique, soit d'une entreprise privée, ça peut être le pire ou la meilleure des choses. Le pire, imagine 10 directrices, 10 adjointes administratives qui frappent les rapports du patron hein, avec l'intelligence artificielle. Le patron, il n'en a plus besoin que d'une seule. On est d'accord ? Donc il y a 9...
Voir, et moi j'ai connu ça un petit peu, où c'était quand même le patron qui se tapait ses courriers pour économiser un secrétaire.
Voilà. mais la secrétaire, elle peut avoir un autre rôle que simplement taper les rapports.
Mais bien sûr.
Elle peut être insérée dans le cadre de la... Et moi, c'est ça que j'ai fait. Au moment de l'introduction du numérique, comme directeur, j'ai fait en sorte que mes secrétaires participent à l'activité du service. Et ça, c'est important. Mais ça ne peut s'accompagner que d'une reconnaissance des qualifications, d'une formation continue et du salaire qui va avec. Or, comme le rôle du capital, c'est toujours...
C'est le dernier point qui est... Ben oui. Pas évident, le salaire qui va avec.
Observe ça, puisqu'on est, parce que on est bientôt le 8.
Moi, j'ai connu la même chose, mais c'est que le salaire devait rester identique.
Observe qu'on est bientôt le 8 mars, qui est la journée internationale, non pas de la femme, mais des droits des femmes. Et des luttes des femmes. Hein. Observe qu'aujourd'hui, il est constaté qu'à salaire égal, à compétence égale, le salaire des femmes est plus de 24% inférieur. Et je te fais observer, c'est dans le secteur privé, ça. Parce que dans le service public, ça n'existe pas.
Tu sais ce qui serait intéressant.
Attends, laisse-moi finir. Les salaires hommes-femmes dans le service public sont égaux du fait qu'on est payé en fonction du statut, c'est-à-dire du grade.
Ouais.
Tandis que dans le secteur privé, c'est 24%. Pour quelle raison ? C'est le capitalisme qui décide de ça. C'est pas la machine.
Ce qui serait intéressant, enfin bon, moi je dis ça comme ça, mais c'est de voir les entreprises, les énormes entreprises, français ou peu importe, hein, qui soit dirigé par des femmes.
Non, c'est la même chose.
Eh ben, c'est ce que je dis.
C'est la même chose.
C'est ce que je dis.
Et c'est normal que ça soit la même chose, puisqu'en fait, si tu veux, les femmes qui dirigent les entreprises sont intégrées au système. Et c'est le système qui est au-dessus d'elles.
C'est ça.
Même si elles le voulaient, elles ne pourraient pas. Tu comprends ce que je veux dire ?
Non, mais je suis d'accord.
Donc, pour terminer, parce que je pense que c'est la fin, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on efface une révolution de ce que Marx appelle la révolution des forces productives, technique, et qu'il faut aussi une révolution humaine, c'est-à-dire une réappropriation par l'être humain des machines qui aujourd'hui sont imposées aux hommes. Et ça, c'est important à comprendre. Si on ne fait pas de révolution, on aura à la fois le système technique que veut nous imposer le capital et les guerres qui vont avec, puisque la guerre, si tu veux, c'est le moyen d'externaliser les problématiques internes. En 14, c'était les colonies extérieures et on s'est confronté de partout. Et en 40, c'était aussi un problème économique qui a généré l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc moi, j'ai un appel à lancer. Aujourd'hui, il faut partout organiser des collectifs pour la paix, se battre contre la guerre, pour l'égalité des droits salariaux et la retraite à 60 ans.
Eh bien, c'est une bonne fin. J'adhère à tout ça.
Il nous reste 30 secondes pour conclure. En effet.
Allons-y, alors.
Ouais, 30 secondes.
Alors, à 30 secondes, on apprécie toujours les études qui sont faites, qui relatent les évolutions du capitalisme et donc, comme je précisais, un petit peu de l'esprit humain qui n'a pas tellement changé. Nous espérons donc une variable grâce à l'intelligence économique dont on ne doit pas avoir peur parce que tous les changements ont toujours été faits dans toutes les époques. Ce qui est très dommageable aujourd'hui, c'est la vitesse du changement. Ça, c'est énorme de voir que les changements arrivent à la vitesse grand V et que les gens qui ne peuvent pas malheureusement prendre le chemin sont arrêtés.
Je peux encore dire une phrase ?
J'ai envie de te dire non, mais vas-y en 10 secondes, il est 9h28.
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement.
On t'entend pas, Fabrice, s'il te plaît.
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Et c'est ça qui est très important à comprendre.
Parfait. Merci en tout cas, Fabrice, pour ton éclairage, ton analyse, ton travail. C'est toujours intéressant. Richard aussi d'avoir réagi. On a amené des pistes, on a mis des rebonds. D'accord, pas d'accord, c'est toujours extrêmement intéressant. Merci Fabrice Aubert. Pause musicale avec nos invités. On va parler des Rolling Stones et d'un concert qui a lieu au 191 Manhattan, boulevard de la Val-Barrel. On a les deux musiciens qui sont présents parmi les huit, le chanteur et le saxophoniste, ils sont avec nous. Et petite pause musicale en fait référence à eux, chez The Rainbow, évidemment, sur les ondes du 88.4. On revient juste après ça. Brown Sugar.
Thank you.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à la culture et au volet musical. Pendant près de 30 minutes sur les ondes de Galère, on va accueillir un groupe de musique. On va parler des Rolling Stones. On accueille ce matin, toujours en direct, sur les ondes du 88.4 de la bande FM, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8, c'est Antonio Micro, Richard également. Et nos invités du jour, et c'est un vrai plaisir, un coup de cœur pour nos musiciens qui sont avec nous, Christophe Piras, chanteur, Fred Buram, au saxo et saxophoniste. On va vous saluer dans un premier temps, évidemment, messieurs. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir.
Avec grand plaisir, et je salue Céline, qu'on connaît bien du collectif oui. Manifesterien, qui a permis cette connexion-là, donc je la salue. Je crois qu'elle ne peut pas nous écouter actuellement, tu me le confirmes Christophe, oui, mais elle écoutera le podcast. Et on la salue parce qu'elle a permis de faire ce trait d'union entre vous et nous.
On lui doit beaucoup, on lui doit beaucoup.
Exactement. Bonjour Fred Buram, notre saxophoniste qui est avec nous.
Bonjour à tous, bonjour à toi.
N'hésitez pas à vous rapprocher un peu plus du micro, voilà, s'il vous plaît Fred. Quasiment à 5 cm.
5 cm, j'essaye de rester dans les...
Parfait, voilà, pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour Fred en tout cas, bienvenue chez nous.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. Alors un petit mot rapidement, je vous présente pour les auditeurs et auditrices. On va parler de l'événement qui a lieu samedi 15 mars, évidemment, Tribute to the Rolling Stone, She's a Rainbow, on va l'évoquer, ça se passe le 15 mars, donc dans 10 jours, à la salle 191 Manhattan, ça se situe au 191 boulevard de la Val-Barelle, bon, dans le 11e à Marseille. On est bon avec ça ?
C'est parfait,
ouais, c'est super
parfait.
Explicatif.
10 euros, vous voyez, extrêmement accessible. La première partie, Kipnas, on va en dire deux mots, mais avant ça, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le chanteur Christophe Piras qui est avec nous, chanteur depuis l'âge de 20 ans, auteur, compositeur, interprète, qui était au sein de différentes formations, Sine qua non avec un album qui s'appelle Passage interdit, Icaros avec l'album Icar, donc Icaros était donc une des formations musicales, Redance, auteur notamment avec 5 titres éponymes, et évidemment influencé par les Rolling Stones, qui a fait partie d'ailleurs d'un précédent tribute, c'est comme ça qu'on les appelle, les chats perchés. Voilà, donc ça c'est pour Christophe et pour Fred, donc le saxophoniste, saxophone, alto, ténor, baryton, clarinette, flûte traversière, la palette est large, c'est notre musicien du jour, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et interprète, des études de jazz, je cite, à l'IACP de Paris, il est dans notre région et à Marseille depuis la fin des années 90, où il a monté le groupe Jama Sound, vous me dites si je me trompe, il joue avec plusieurs intervenants de la scène régionale, notamment les copains Massilia Sound System qu'on connaît très bien, qui sont dans les playlists de Radio Galère, Imhotep également, Tocoblet, Joe Corbeau, qu'on salue aussi, qu'on a écouté... enfin, qu'on salue, voilà, on peut rendre hommage à ce grand, on peut dire poète, ouais.
Oui, c'est un poète, ouais. Bien sûr.
Qui a bien œuvré, qu'on connaît bien Radio
un
Galère.
Troubadour.
Tout à fait. Le slam, notamment, du jazz créole, de la scène jazz, le big band du CNRS, du trio, du quartet. Et vous avez participé également avec Siska dans le collectif, je ne sais pas si on dit... Je crois qu'on dit Nize, hein, c'est bien ça ?
Oui, en fait, on prononce tout, c'est No Night in Zion.
Magnifique,
il
n'y
a
du
pas
cosplay.
De nuit dans le Zion.
Exactement, dans le Zion. Ça nous rappelle évidemment la Jamaïque.
C'est du gospel jamaïcain.
Ah, tout à fait. C'est magnifique. Messieurs, on va donc parler de ça. Alors, Richard veut intervenir juste avant. Enfin, en tout cas, c'est la question d'après. On va parler de cette soirée-là. Mais on va surtout parler de cet amour, cette passion que vous avez pour les Rolling Stones. Richard,
je
t'en prie.
Moi, je connaissais pas le 191 Manhattan. Oui. Donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Alors d'abord, c'est une offre de parking à l'intérieur d'une cour, c'est ça ?
Complètement, un très grand parking.
Ça, c'est très important pour les gens qui vont venir parce qu'il y a un parking.
Protégé.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est destiné à l'art et à la culture. Et vous êtes là parce que c'est pas pour rien. Et deuxièmement, le décor intérieur fait un petit peu boîte de nuit, c'est ça ?
Complètement.
Avec un bar, bon, etc. Où dans la soirée, les gens pourront peut-être même un peu se mouvoir, danser.
Voilà, c'est une jauge de à peu près 110 personnes.
Hein. Voilà.
Christophe, il faut que tu te rapproches du micro, on t'entend mal.
Pardon, excuse-moi. Et oui, donc 110 personnes au maximum. Et puis voilà, ils accueillent beaucoup de concerts. concerts. Hein. Tous les week-ends, il y a des concerts, il y a des jam sessions. Voilà.
Oui, elle a quand même une vraie notoriété.
Complètement.
Et puis elle a une âme. C'est-à-dire qu'il y a ce côté.
Elle a une âme, oui.
Un peu, voilà, un peu. Parfois rock'n'roll, un peu.
Exactement. Et j'ai moi-même participé aux travaux. Hein, donc vous en parliez. Pour aider Olivier Riboulet qui est le propriétaire des lieux.
Oui, qui aurait dû venir et qui a pas
et
pu
malheureusement,
venir
il ne peut pas venir. Voilà.
Bon, on l'invitera.
Volontiers, ouais, ça lui fera plaisir.
Tout à fait.
Alors, avant que vous attaquiez les éléments musicaux, puisque vous les connaissez bien parfaitement, est-ce qu'il faut réserver? Bon, on rappelle que c'est 10 euros l'entrée, c'est-à-dire rien du tout.
Oui.
Faut les trouver, quand même. Pour certains, c'est pas rien du tout, mais c'est pas cher.
Exactement.
Non, mais voilà.
Il y a quand même des gens.
Quand je dis sérieux du tout, je me suis mal exprimé, mais par rapport à la prestation et la qualité des musiciens que vous avez.
Bien entendu. Bien entendu.
Tous les musiciens ont une expérience formidable. Et c'est des professionnels, quoi. C'est vraiment des cracks.
C'est gentil de dire ça. Je dirais pas jusque là pour certains, mais pour rester humble,
pas tous.
Je parle pour moi. Mais oui, effectivement. Après, on fait pas spécialement ça pour l'argent. On fait ça surtout pour une passion, pour des rencontres. Effectivement, il va falloir pour nous, si on veut évoluer, avoir de plus grandes salles et tout. Et je pense que ça peut être fait vu la qualité justement de ces musiciens. Mais là, pour l'instant, nous sommes au début de cette aventure, un peu de cette expérience. Nous, ça faisait un moment déjà qu'on jouait à 4-5, parce que bon, les Stones, au départ, ont commencé en 1962, hein, ça a commencé, ils étaient 4-5, avec Brian Jones, ou alors ils avaient un petit appui avec Ian Stewart au piano. Voilà. Mais après, ça s'est étoffé un petit peu. Grâce à Brian Jones, on a pu découvrir des instruments spéciaux, comme la flûte, comme le dulcimer,
l'harmonica
tout à fait,
pas l'harmonica
complètement, bien sûr.
C'est super important, l'harmonica.
Voilà, alors à ce sujet là bien sûr, on a on peut le dire, un crack, c'est Ange Amadei qui est quand même une très grosse pointure au
40
niveau
ans d'expérience,
oui, au niveau de l'harmonica. Je suis très fier de l'avoir avec nous.
Il joue bien, il connaît le taf. Ouais.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Il y aura un peu de country aussi.
Complètement, hein. Les Stones sont influencés par la country, notamment avec des morceaux comme Dead Flowers ou Wild Horses.
Parce que l'harmonica et la country, c'est
complètement. Bien,
Oui, il y a de la country, il y a country rock, country. Il y a aussi du, comment on appelle ça, un peu de la Nouvelle-Orléans des fois, grâce à Fred qui va apporter cette touche là, qui va nous donner cette couleur là, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure, en étant 5, on ne peut pas développer cette couleur, cette richesse.
C'est que la palette, justement, la palette est riche, les sensibilités sont riches, et elles forment évidemment une harmonie musicale avec des sensibilités différentes, et j'allais dire une passion commune qui est à la fois la musique, l'envie aussi d'échanger, de produire et de transmettre des émotions. Et en plus, a priori, je crois que c'est plutôt le cas des 8 musiciens que je ne connais pas tous, mais il y a forcément un attrait pour les Rolling Stones.
Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un attrait pour les Rolling Stones, sauf peut-être pour Fred, qui est arrivé un petit peu grâce à Céline, dont on parlait tout à l'heure, qui m'a été présenté. Et bon, moi, effectivement, j'ai essayé de communiquer cet amour, mais au départ, il était, il vient d'un autre univers, et c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui fait la
part. Impitoyable.
Voilà. Et du coup, on s'est retrouvés comme ça à la première répétition, et c'est pas évident, vous savez ce que c'est, on arrive, des musiciens sont là, on se connaît pas tous, effectivement, on se jauge, on se juge, et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu, je dirais, comme une petite alchimie qui et on a pu...
ça se sent, en tout cas.
Voilà, en tout cas, on est là aujourd'hui, ensemble, et je pense que ce projet va être très, très sympathique, vraiment très... avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. On va garder l'énergie des Rolling Stones, hein, la jeunesse des Rolling Stones, qui me permet encore d'être aussi jeune à 53 ans.
Tu les fais pas, cher Christophe.
Alors, Est-ce que vous avez déjà des créations de musique en vue ou parce que bon, vu la qualité de, enfin moi je regardais un petit peu tous vos cursus. Hein, bon.
Alors ce qui se passe, j'aimerais que ça soit comme un collectif, c'est-à-dire que on va trouver des dates, évidemment, bien sûr, parce que je l'espère, avec un projet comme ça et avec un groupe aussi mythique et avec une originalité quand même par rapport. Sans dire du mal des autres, on est quand même sur un truc qui est béton. On n'est pas dans la simplicité, on n'est pas dans la comment dire.
Vous êtes dans le partage, dans l'énergie.
Voilà. Donc, ça, c'est important. Ce que j'espère, c'est qu'on trouvera des dates, beaucoup de dates. On en a quelques-unes en prévision, bien sûr, hein, notamment sur dans le Var. On va beaucoup tourner dans le Var. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ça va être comme un collectif, parce que le problème de nous, les musiciens, enfin, notre problème, c'est que souvent on n'a pas toujours le temps d'être là, de pouvoir être là. Et ben Ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont venir.
Il y a des gens qui viennent aussi de, voilà. Qui travaillent en parallèle et qui font ça en complément, voilà. D'autres qui sont vraiment lancés avec des albums et autres. Donc c'est tout.
Voilà. She's a Rainbow peut évoluer de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 et pourquoi pas de 10 voilà. Personnes. Voilà.
La question est oratoire et puis on va laisser la parole aussi à Fred. Pourquoi She's a Rainbow?
Alors, pourquoi She's a Rainbow? Parce que, pour moi, il était difficile de trouver un nom et j'ai laissé ça justement à Céline un petit peu. Elle voulait un côté un petit peu féminin, voilà, et quelque chose de romantique, voilà. Plutôt que ça s'appelait It's Only Rock'n'Roll ou Midnight Rambler, des trucs un peu sauvages, on a préféré un côté un petit peu poétique.
Mais l'espoir, le... l'arc-en-ciel.
C'est vrai, féminin, c'est pas mal aussi, Fred. Parce que du coup, c'est moins dans la catégorie classique groupe de rock.
Oui, tout à fait.
C'est vrai,
le néo-metal, la testostérone.
Voilà, bon, là, ça assouplit un petit peu ce cadre-là.
Parle-nous, Fred, justement, Christophe l'a très bien fait, de cette connexion que tu as, de cette sensibilité que tu amènes de par ton univers musical qui, au départ, alors. Il n'est pas aux antipodes des Rolling Stones,
non,
mais en tout cas,
du tout.
Ton univers. Mm-hmm. Parle-nous un petit peu de ça, parce que Christophe le fait avec beaucoup d'énergie, de passion et de générosité.
Ouais, de verve.
Mais forcément, on imagine que toi aussi, tu as été touché par ce groupe, par cet univers.
Ben, en fait, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, une première rencontre. On m'avait sollicité, donc vous parliez de Céline il y a peu de temps. Que je connais du coup par d'autres biais, pour joindre ce groupe, ou en tout cas m'y intéresser. Alors, comme je suis ouvert, on va dire, je me suis dit, d'accord. Et puis en plus, les Rolling Stones, c'est vrai que c'est un groupe que j'avais pas en connaissance directe, mais indirecte, c'est difficile de passer à côté.
Oui,
donc,
d'accord.
Du coup,
sortiment où on est dans la musique, a priori.
Oui,
Rolling
voilà,
Stone,
c'est pas le pire des groupes, loin de là. Donc, évidemment. Bon, je me dis, bon, oui, allons voir, c'est pas très loin. Je connaissais déjà le 191 Manhattan.
Très
du
bien.
Coup, c'est un lieu
on
un peu isolé.
Le samedi 15 mars.
Mais au moins, je connaissais comment y aller. Même avec le GPS, on trouve très facilement. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on peut se garer facilement.
Voilà.
Ça circule bien. Voilà. Et puis, à l'intérieur, ça fait. Je corrige, ça fait pas trop boîte de nuit, ça fait plus club.
Boîte
de nuit, c'est vraiment
club.
Un lieu où il y a une piste de danse au milieu, etc., qui peut glacer un peu les gens. Là, non, il n'y a pas vraiment de piste de danse. On peut trouver des endroits pour danser, évidemment, hein, mais c'est plus un endroit un peu cosy, voilà, lumière tamisée, on boit ce qu'on veut. Bref. Et lorsque je suis passé une première fois, j'ai vu déjà une équipe, c'est une rencontre humaine en premier, hein, voilà. Musicalement, j'étais assez surpris par la qualité. Je me suis dit, les ingrédients sont réunis. Il y a des chouettes gars, ils se prennent pas la tête, ils jouent bien. Et puis, une belle énergie. Et puis, humainement, ça tient. Dans le cadre de, ils se prennent pas la tête. C'est-à-dire que c'est des gens simples. Et ça me correspond, moi aussi, hein. Je suis pas un kéké qui fait, le coq sans arrêt, quoi. Donc, même jamais, c'est pas ce qui m'intéresse.
Très, très bien. Un mot un petit peu aussi sur les musiciens du groupe She's a Rainbow. Donc, on le rappelle, on retrouvera samedi 15 mars au 191 Manhattan. Un mot rapidement hein, sur le bassiste, le claviériste, c'est comme ça qu'on peut
le dire. Le bassiste, c'est un peu, on va dire, l'esprit, hein, le vieil homme, 69 ans, hein, je crois, à son actif, voilà, un combat intérieur entre les Beatles et les Rolling Stones. Et là, j'essaye de le tirer vers les meilleurs, bien sûr. Non, il connaît tout sur le bout des doigts. Il répète 2-3 heures par jour, puisqu'il est à la retraite. Chance à lui. Et c'est un très, très, très bon bassiste, tout en... Voilà, très droit, très simple, mais...
Facile.
Facile, voilà.
On a l'impression que vous avez quand même... vous êtes entouré de gens de qualité, de savoir, tous dans leur partie. Et ça, c'est très important pour les gens, parce que ce que vous allez faire, donc le 15, ça, c'est, on voit déjà que c'est réussi, quoi, que c'est gentil, des pros. Ça peut pas être autrement avec les qualités des gens, hein, ça veut dire, ou alors c'est que j'y comprends plus rien.
Ben, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas écouter les autres, hein, et s'écouter nous-mêmes, et se faire plaisir. Voilà, on n'a pas besoin, voilà, d'aller chercher ailleurs qu'à l'intérieur de nous. Et ça va être super. On va se régaler, ça c'est sûr et certain. Et puis surtout, on va partager ensemble et on va, profiter chacun les uns des autres. C'est ça qu'il faut surtout se dire. C'est important.
En tout bien, tout honneur.
En tout bien, tout honneur, oui, exactement.
Il y aura un petit bar ouvert pour que les gens puissent...
Oui, complètement, bien sûr. Il y aura une restauration avec normalement un ami qui détient comment on appelle ça, un camion pour nous faire des petits sandwichs.
Un food truck,
j'y arrive. Voilà, avec la charcuterie corse, voilà, en dessous. Ça, c'est bien aussi pour les gens qui pourront se restaurer. Et voilà, et puis en haut, on pourra boire un coup, bien sûr.
Je reviens, il faut réserver, il y a un numéro.
C'est toujours conseillé, je crois, hein, de réserver.
C'est conseillé, alors on a une page Facebook, hein, bien sûr. Il y a la page 191 Manhattan, il y a la page She's a Rainbow, où vous pouvez sélectionner et dire que vous participez. Voilà, après, sur place, on espère refuser du monde. Non, je plaisante. Hein,
on rappelle la capacité.
Moi, je conseille toujours à tout le monde de réserver.
Bien sûr. Oui, il faut réserver, bien entendu. Ça va, je pense que ça sera quand même assez... ça sera complet, hein, dans l'ensemble. Mais
on rappelle la capacité de la salle.
Ouais, 110 personnes.
Est-ce que je peux donner celui-là ou
donc
pas?
C'est quand même extrêmement sympathique. 110 personnes.
Oui, complètement. Si ça a été mis, on peut donner les coordonnées de la salle, bien entendu.
Voilà, allez, je vais vous donner un téléphone, alors. Je ne savais pas si on pouvait le donner, mais enfin, c'est bien de le faire. 06 71 74 12 71. Ainsi, voilà. Déjà, vous pourrez avoir par téléphone tous les renseignements, ou alors donc de rentrer 191 Manhattan.
Ouais, sur Facebook, quoi,
sur Facebook, etc.
Voilà.
Et ça vous permettra de faire les choses normalement, c'est-à-dire de réserver, voilà. Et surtout, si vous voulez peut-être avoir de la restauration, il vaut mieux le prévoir. Hein.
Ah, parce que la charcuterie corse.
Oui, il y aura des petites choses, il y aura des petits sandwichs aussi, des panini, des bêtises comme ça. Il y aura à faire. Voilà, c'est pas un restaurant,
ça,
hein,
ça
c'est
sûr.
Ça
fait partie du jeu.
Voilà,
un mot sur les musiciens. On a évoqué le bassiste. On parlait de Frédéric aussi Alec pour le clavier. Ange Amadei, vous l'avez dit, l'harmoniciste. Il y en a d'autres, le guitariste, le batteur. Parlons un petit peu des copains.
Bien sûr, ben Fabrice, c'est quelqu'un avec qui je joue depuis 3-4 ans avec lui. On avait fait un tribute déjà à Rolling Stone au Sheridan. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet endroit.
Tout à fait.
Voilà, on l'avait fait, on s'était bien amusé, on avait bien rempli la salle, on avait enfin, c'était super. Donc il y avait Fabrice à l'époque avec moi déjà. Il y avait Pierre Juillet aussi, donc le bassiste qui avait évolué avec nous. Frédéric Allègre est arrivé récemment. Frédéric Allègre, c'est beaucoup de tributes. Hein,
c'est le clavier.
Un spécialiste, voilà, le clavier, c'est un spécialiste des tributes John Lennon, Beatles, Deep Purple, voilà. Il a fait beaucoup ça. Et puis, bien sûr, il fait d'autres choses, des compositions, voilà. Patrick Giovanelli, c'est d'abord un ami. Hein, avec Denis, Sam Morino et Patrick Giovanelli, nous avons fait une petite tournée dans le Var avec les Rolling Stones encore une fois, mais à effectif réduit. On avait fait une petite tournée vers les Sablettes, vers les Saint-Mandrier.
Parfait.
Il y a bien quoi.
Ouais, le Gaou, tout ouais. ça, tout l'été, on s'était bien régalé. Ouais, voilà. Après, voilà, il y a un Jamadei qui est, voilà, comme Fred, c'est un peu le, voilà, c'est vraiment les, ce qui va donner toute cette richesse, cette couleur en plus, et on en avait bien besoin pour étoffer tout ça, pour rendre ce projet un petit peu original, un peu, beaucoup plus original. Voilà.
Alors, je reviens sur une question, je sais pas si j'ai eu vraiment la réponse, mais bon. Ah. Est-ce qu'il y a des créations de musique qui sont à dans votre idée, dans votre esprit pour plus tard? Alors, des morceaux à vous.
Alors complètement. Après,
Christophe,
ce qu'il faut.
Et Fred derrière.
Je vais laisser Fred parler.
Non, mais je t'en prie, vas-y.
Ensuite, cash.
Alors j'y vais moi. Allez, j'y vais moi. Allez, nous sommes, comme il a été dit tout à l'heure, auteurs, compositeurs, interprètes. Pour la plupart, et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que la musique, c'est surtout la création et créer. C'est bien de jouer les morceaux des autres.
Mais il faut avoir
autres,
son identité,
et oui. C'est là qu'on apprend vraiment, bien sûr, en tant que musicien. Alors, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, dans l'absolu, j'aimerais dériver vers autre chose. Mais ça, il faut voir les connexions, les amitiés qui se forment. Et bien sûr, je pense que pour parler de moi, j'ai un album en préparation. Mais c'est long, hein, on a le temps, on n'est pas pressé. On fait ça pour le plaisir, à la Marseillaise. Et bien sûr, ce qui serait bien, c'est de se mélanger. Mais on va d'abord aller petit à petit et voir un peu. Voilà, je laisse la parole à Fred.
Ça faisait partie des premières questions que j'ai posées à Christophe lorsqu'on s'est eu au téléphone pour intégrer ce groupe. C'est que j'ai fait quelques groupes de reprises, mais ça remonte à longtemps. Mais c'est très rare que je m'inscrive dans des groupes de reprises parce que je préfère me suivre des projets avec des créations. Donc ça, c'est toujours ce que j'ai été amené à faire depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Et puis, malgré tout, comme je disais que les ingrédients étaient réunis, c'est-à-dire que humainement et musicalement, ça roulait. Et puis les Rolling Stones, c'est le fond, le terrain, il est quand même culturellement super attractif. Donc évidemment, j'ai trouvé ma place. Après, c'est le début d'une histoire. Donc du coup, on verra ce que le temps nous donnera. Ça se trouve peut-être qu'on peut faire effectivement quelques compositions, puisque monsieur Christophe Piras, ici présent, en a déjà sous le coude, donc pourquoi pas. Après, ça reste
plein d'idées,
l'affaire, c'est l'avenir, c'est nous qui l'écrirons sur cette question là
oui.
Intéressant. 9h54 sur les ondes de Radio Galère 81.4, on parle, on est avec le groupe She's a Rainbow qui donc se produira et jouera le samedi 15 mars au 191 Manhattan, c'est au 191 boulevard de la Val-Barrel dans le 11e à Marseille. On a encore 4 minutes
à partir
avec
de 20h.
À partir de 20h, 10 euros.
À partir de 20h, et on verra à cette occasion.
Première partie.
Oui, meilleur, un mot sur la première partie,
voilà,
tout à fait.
Un trio extraordinaire, des amis de longue date. Hein. Donc il y a Patrick Kyprios à la guitare, Daniel Nastri à la basse et Philippe Nastri à la basse. Un trio magnifique, bien rock. Ça va être sympa, ils vont pouvoir nous chauffer la salle, voilà. Ils m'ont même dit que ça allait être difficile de passer après eux, mais bon, on verra bien.
Le challenge,
on les encourage,
la compétition,
le
challenge à la Marseillaise.
L'ambition est là aussi, c'est bien.
C'est ça qui est beau, c'est ça.
C'est, je sais plus comment on dit, majoratif. En tout cas, ça va vers le mieux. Hein. C'est pas non plus pour mettre down les.
Jamais
qui que ce soit.
Voilà,
c'est ça.
Non.
Et comment, alors justement, un mot sur. C'est votre première fois ensemble au 191 Manhattan, on est d'accord?
On est d'accord.
Voilà.
Yeah. C'est le premier
chacun
concert de She's a Rainbow.
Et c'est le premier concert, oui, évidemment.
Voilà, en espérant, comme on en a parlé, hein, un bel avenir et plein de belles choses parce que tous les ingrédients sont là. Voilà. Mais... Et surtout l'amour des Rolling Stones. Hein, comme vous pouvez le voir, je suis tatoué.
Ah voilà, alors on t'entend plus, Christophe, tatoué Rolling Stone avec la fameuse langue
des Rolling Stones, voilà, et merci encore à ce groupe mythique, magique, et merci à ma mère de m'avoir fait connaître.
Magnifique, on a encore deux minutes, Voilà. On peut en parler. C'est depuis tout petit, pour être tatoué, c'est que c'est évidemment tu as ça dans le
dans la peau. C'est la peau. C'est la peau.
C'est la peau.
C'est la voilà. C'est la peau. C'est le sang. C'est oui. Et ben et puis quel groupe extraordinaire, quelle longévité et quelle aussi qualité, hein, parce que quand on voit même. Bon, moi, quand je les regarde maintenant, c'est vrai qu'ils ont tellement vieilli. Mais quand je vois ce Mick Jagger sauter dans tous les coins à 80 ans, c'est quand même incroyable.
Ouais, ouais. On se demande comment à Kawhi il carbure quand même.
Ouais, 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 ouais,
c'est un exemple pour beaucoup.
Bah, je pense que c'est un sportif
merci,
de haut niveau.
Mais vraiment. Oui. C'est ça. Non, mais c'est vrai que quelque part, ça donne aussi des espoirs sur notre corps et notre capacité à faire, même malgré l'âge.
Voilà.
Alors, avec l'énergie.
C'est incroyable. Pour moi, c'est un élixir de jouvence, comme je disais tout à l'heure. Les Stones, c'est ça, c'est la jeunesse, c'est l'énergie,
ah oui.
C'est la voilà.
Et le talent quand même, ne l'oublie
pas. Bien sûr, le talent. Voilà, là on a une guitare. Il y a plusieurs époques.
On a 60 ans.
Ouais, 60 ans de carrière. Ils ont
commencé
en 62. En 62,
parce que c'est vertigineux.
C'est incroyable.
Charlie Watt a intégré le groupe en 62, un peu plus tard. Que les autres, voilà. Bill
est-ce
Wyman.
Qu'on peut dire que c'est le groupe du siècle avec les Beatles, est-ce qu'on peut le dire?
Moi, pour moi, ils sont...
Du siècle dernier ou du siècle présent?
C'est une très bonne... On va dire plutôt le siècle
pour
dernier.
Pour moi,
après,
les Beatles... Ouais,
ça répond mieux,
oui,
du
oui,
coup.
C'est
hein,
vrai,
hein.
C'est vrai.
Pour moi, les Beatles n'ont pas le niveau. Mais bon, après, c'est une question de...
Oui, hein. Oui, non, mais...
c'est la célèbre question.
C'était pour te taquiner.
Non, je plaisante.
Certains diront les... Non, mais après... Les Rolling Stones...
Ce qu'il y a de bien dans les Rolling Stones, c'est qu'il justement, il y a 60 ans de carrière et il y a aussi une palette complètement qui a évolué avec le temps. Ils sont passés, bien sûr, du rhythm and blues à des Muddy Waters, des Chuck Berry. Ils ont enchaîné avec...
Ça, il y a beaucoup de musique noire derrière les Rolling Stones. Alors moi, en tant qu'Antillais, je m'y retrouve. Hein. C'est aussi...
C'est important de rappeler. C'est pas souvent...
Bah ouais.
C'est pas souvent
ça a commencé comme ça.
Développé.
Hein.
Ouais, mais c'est pas souvent développé.
Ouais. Voilà. Ouais, ça m'a fait penser un peu à l'école de Chicago ou de Détroit aux États-Unis où on a ce petit mélange de musique afro-américaine, black culture, avec le côté rock, mais qui est ouvert à une culture qui fait bouger les fesses, quoi. C'est pas uniquement...
Oui, parce qu'ils ont été toujours associés à des musiciens de talent, bien sûr, mais noir américain, voilà, il y a eu beaucoup, même à l'époque, donc comme je disais, ça a évolué avec aussi les différents guitaristes qu'ils ont eu. Brian Jones qui a fondé le groupe et qui est mort dans sa piscine, comme chacun le sait. Et puis après, il y a eu aussi Mick Taylor qui est arrivé, qui a apporté une qualité artistique différente et c'est avec lui, je pense, que les meilleurs albums sont sortis, Sticky Fingers, Exit on the Main Street, Ghost and Soup, voilà, c'est et puis après on a eu
le entendez le mélomane que ça
le
il connaît tout par cœur,
Ron Wood,
il est incollable,
le frère que Keith Richards n'a pas eu, le frère gitan, j'ai envie de dire, Ron Wood qui est extraordinaire aussi, voilà, ils ont évolué même vers le disco avec des morceaux comme Miss You, comme Emotional Rescue, et si vous venez le 15 mars, vous aurez l'occasion d'entendre tout ça à notre manière. Voilà.
Merci.
Parfait, avec grand plaisir.
Merci. Parfait.
Merci à vous.
Mille fois. Moi, pour la petite histoire, je dis tout transparence totale. Je ne serai pas là le 14, 15 et 16. Là, on est sur un week-end famille. Sinon, c'était avec un grand plaisir. Par contre, j'invite tous les auditeurs et auditrices à vous rapprocher pour accéder à la billetterie. On le rappellera mercredi prochain, nous, dans l'agenda, pour rappeler
beaucoup.
La promo. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Cool. Et n'hésitez pas, Fred, évidemment, et Christophe, lorsque vous avez des actualités et des événements, à venir en parler à la radio.
Ça marche.
Merci.
C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd.
Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et que ça soit individuel ou collectif, parce que parfois, on peut être sur d'autres trames, j'allais dire. Vous êtes toujours les bienvenus.
En tout cas, on a été super bien reçus.
C'est très
bravo,
gentil.
Bravo.
Avec grand plaisir.
Vous êtes formidables.
Mais vous l'êtes aussi. Merci
beaucoup.
On sent
la passion.
Et on sent la vôtre aussi. Et ça,
merci.
Et le talent incarné. Et on remercie encore Céline. Notre émission touche à sa fin. Tout de suite, c'est la programmation de Radio Galère. Nous, on se retrouve à la même heure la semaine prochaine, 8h-10h sur les ondes de Galère, avec des dossiers, vous verrez, extrêmement intéressants. Christian, qui était absent aujourd'hui, nous fera le plaisir de revenir dans l'équipe matinale. Et on vous rappelle que cette émission passe en rediffusion ce dimanche de 11h à 13h. Si vous voulez vous réécouter chez The Rainbow, c'est ce dimanche de 12h30 à 13h, pendant l'apéro ou pendant le petit repas. Sur le 88.4, vous allez vous entendre pendant près de 30 minutes. Et sinon, pour les autres, c'est de 11h à 13h, puisqu'on a donc 2h d'émission en direct. Et ce, depuis janvier 2007. On y tient, ça fait 18 ans. Et on veut que ça continue. Merci, Chiesa Wembo.
Merci,
plaisir
Anto,
de vous revoir.
Merci, Richard.
Et à très bientôt. Merci. Voilà, merci. Le talent était présent ce matin. Merci, Richard.